Je comprends plus rien. Ça va les copains? Attendez, je finis mon petit déj. Ça va? Bonjour. J'arrive plus quand ça commence. Ouais. Encore, ça n'a pas encore commencé, attends. On veut savoir, c'est des pâtes au quoi? C'est des pâtes au fromage. C'est une pasta box. J'espère que Gastronogeek qui va pas me voir parce que il va me gronder sinon. Et bon, c'est fini. C'est fini. Merci le Merlu Barbu. Merci Gdrasil qui a offert 5 subs tout à l'heure. Merci Gdrasil. Merci beaucoup pour les 5 subs.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment.
Incroyable. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai fini de manger. Il faut donner de la force à Pemph. Pemph le monteur. Pemph il a une rage de dents, le pauvre. Donnez de la force à Pemph. Ça fait super mal les rages de dents, j'ai horreur de ça. Courage mec. Ouais. Force à toi. Bon courage. Moi je sais pas comment faire pour, je sais pas, paracétamol. Prendre la drogue, je sais pas, j'en sais rien. Je tiendrai bon pour clôturer le best-of. Tranquille, te force pas. Il n'y a pas de soucis, c'est à 24 heures de retard, c'est pas grave. Ibuprofène pour les dents. Ouais. Je sais plus qui disait, il faut. Non, ça c'est pour la gorge. Il faut pas boire des trucs chauds, contrairement à ce qu'on pense. Les infusions, tout ça, parce que ça réactive la douleur. Voilà, c'est ce que m'a dit un médecin une fois. Il faut consulter un médecin. Ouais. Courage à toi. L'héroïne, il n'y a que ça. Pour se déchausser les dents. Clou de girofle, ça marche de ouf. Ah ouais, c'est vrai cette histoire. Bah, tant mieux, écoute, ça marche. Sinon, prendre l'homéopathie. Prends, et puis, si t'en as pas, tu prends direct du sucre. Ibuprofène, c'est à inviter en cas d'infection. Ah. Bain de bouche. Bain de bouche d'aspirine, ah, pas bête. Petite sucrète. Merci Clémence. Anti-inflammatoire. T'es pas médecin, seulement pilote d'avion. Ouais, je suis nul en médecine. Le clou de girofle, je confirme. Ok. Bah écoute, tant mieux. Hein. Mais ça se prend comment du coup le clou de... Parce que c'est. Attends, le clou de girofle. C'est un champignon, on est d'accord? Ouais, ça. Clou de girofle. Mais tu le prends comment du coup? Tu fous des champlards dans ta bouche? Malade, en huile essentielle, infusion. Tu le mets en bouche directement contre les dents. Tu leur suces le derrière. Tu les plantes dans la gencive. En suppôt. Pas le champignon, l'épice. Ah non, c'est une épice. Enfin, ça ressemble quand même vachement à des champlards. Hein. Ok. Bah, va à l'épicerie. Hein. Je note Clou de girofle en suppôt. Très bien, je reviens. Girofle et la. Ah non, je confonds avec la girole. Ah! Je confonds avec la girole. Ah ouais. Ah ouais, c'est la girole le champlard. Rien à voir. Ah ouais. D'accord, et du coup, clou de girole, ça n'existe pas, ça veut rien dire. Merci à la Gamouniel pour ton prime. D'accord. C'est quoi cette voix, mon bon Jean? Faut remettre la colle roulée, c'est à froid. J'ai pas de colle roulée, en plus, je me suis rendu compte que j'avais pas de colle roulée. Ça coûte combien un colle roulée? Attends. Oh, il y en a à 20 balles. Il y en a à 30 balles. Ouais, mais à chaque fois, ils mettent des mannequins qui sont hyper bien gaulés. Ça rendra pas pareil sur moi. Col roulé, putain. Les amis, ce soir, Emmanuel Macron sera invité sur France 2 dans la nouvelle émission politique de France 2 qui s'appelle Événement. Et moi, je serai sur France Info pour débriefer. Je serai sur France Info pour débriefer à 22h30, je crois. Voilà, il y a Samuel Etienne qui m'a dit que lui, il diffuserait sur Twitch l'émission parce qu'il a les droits de diffusion de France 2. Et moi, j'avais déjà dit oui à France Info, donc je serai sur le plateau de France Info. France Info sur Twitch. Non, France Info à la télé. La télé, vous savez, c'est l'ancêtre de Twitch, là, le truc qui est devant la table basse chez vos parents, en face du canapé. Donc ouais, non, je serai sur France Info ce soir. Faut que je mette une chemise, putain. J'ai pas de table à repasser. La chaîne Twitch de France Info ou la TV? Non, non, la TV, je serai à la TV. Comment on fait si on n'a pas la télé? Je crois qu'ils diffusent aussi sur Internet. Je crois qu'ils ont un site Internet. Donc voilà. Donc ce soir, voilà. Je serai sur France Info. Du coup, vous pouvez regarder le stream chez Samuel Etienne si vous voulez. Si vous voulez suivre Emmanuel Macron sur France 2. Essayez les clous de girolle pour tes chemises. La télé, c'est des chaînes Twitch sans chat et sans replay. Ouais, c'est ça, c'est Internet en version non interactif. Donc voilà. Avec des pubs super longues. Ouais, tu peux pas les skip, tu peux être adblock sur ta télé. Il y a pas mal de délais entre la publication d'un message et son apparition sur ton stream. Non, c'est pas vrai. On va faire un mesure de délai. Chers amis, je vais vous donner un mot. Vous allez tous le taper frénétiquement sur le chat dès que je vous l'aurai donné. Et on va compter combien de temps ça met. Le mot, c'est girole. 1, 2, 3, 4. Voilà. À peu près 2 à 3 secondes de délai. Commencez pas à me dire qu'il y a du délai. C'est pas vrai. Merci Myotaro. Merci beaucoup. Merci SGD246. Le délai est normal, c'est le temps de modération. Mais non, on n'a pas mis de délai de modo. Vous avez mis un délai de modo? Mais non, on a dit qu'on n'en mettait pas. Si? Bon, je vous laisse faire, hein. J'avoue, chez moi, je suis à 7 secondes. Mais faites F5, les gars. Au pire, s'il y en a, c'est fine. Mais oui, ça va. C'est que certaines personnes sont en latence basse, d'autres non. Ah, bah désolé si vous êtes en latence basse, les gars. Eh, c'est 2022, hein, va falloir booster un peu la latence, hein. Voilà, hein. Merci TKL, des bisous mec. Non, c'est l'inverse. Ouais, réduire la latence. Ouais, enfin bon, on s'est compris, hein. Ça va, hein. Commencez pas, je suis fatigué. Je viens de me réveiller, c'est bon. Traiter un modo de lâche, c'est puni par un rappel à l'ordre, oui. Je te déconseille d'essayer. Il y a une option latence faible sur les paramètres du lecteur pour ceux qui ne connaissent pas. Ah ouais, c'est vrai, vous pouvez aller dans les paramètres du lecteur Twitch et cliquer sur latence faible. Ça va réduire la latence. Pourquoi tu viens de te lever? Parce que. T'as d'autres questions? N'hésite pas. Hein. J'ai jamais compris pourquoi c'était la latence longue par défaut. Bah c'est, je sais pas, c'est pour éviter de consommer de ta bande passante. Je sais pas. Pourquoi tu bois dans une tasse noire? C'est pas une tasse noire, c'est une tasse Twitch. Ça fait la bringue hier, ça je reconnais. Non, en plus on n'a pas fait la bringue trop tard. Hein. Je suis allé bouffer au resto avec Sarah Coppona et son frère, qui sont de passage à Paris. Et Camille, la batteuse. C'était trop cool. On n'a pas fini tard, hein, c'est pas vrai. Est-ce que... Tu penses quoi de Bayrou qui veut être président en 2027? J'en pense rien, il a pas dit qu'il était candidat, il a dit qu'il excluait rien, comme tous les politiques. Sinon, le siège que tu as doit vachement te réveiller. Est-ce qu'il y a un code promo? Oui, vous avez vu ce fauteuil? Ce fauteuil que vous pouvez acheter sur la boutique de Steelcase en bénéficiant de 15% de réduction avec le code promo JEAN15. C'est un partenariat. Ouais. Optimiste le Bayrou de faire des projets à 5 ans à son âge. Je finis mon café, on commence la revue d'actu. Hein. Tranquille. Ça va vous? Jean 15, ça ressemble beaucoup à Jean Caisse. Oh non, je gagne rien sur les ventes. Hein. Allez-y. Hein. Il est bon le café? Ouais, il est bon. Je révise pour les IRA. Souhaitez-moi bonne chance. Ah ouais, bon courage. Bah tiens, tu peux réviser avec nous si tu veux. On va s'intéresser à la police judiciaire aujourd'hui. Mais bon courage à toi. Je viens d'arriver, t'as pas entendu parler. Est-ce qu'un des news du rapport du QAG sur le Sénat? Merci. Non, je fais plus les QAG au Sénat. Enfin, je les fais plus automatiquement. On les fera peut-être dans l'année si l'actualité le justifie. Mais j'ai arrêté l'émission Sénat Stream. Je ferai un thread sur Twitter pour remercier les équipes de Public Sénat avec qui on a bossé pendant 4 ans. Mais je souhaite me concentrer sur d'autres projets, notamment Baxit. C'était le feu quand il y avait Benalla qui se faisait questionner. Ah, c'était pas pendant les QAG, ça. Hein. C'était pendant une commission d'enquête. Je suis garde de pêche, donc un agent de la police judiciaire chargé de certaines missions de service public. Non, tu es officier de police judiciaire. Comme les maires, etc. C'est pas pareil. Je suis bénévole, je gagne pas d'argent, je suis souvent amené à être en danger, etc. etc. J'aimerais bien qu'une réforme nous donne plus de sécurité. Ouais. Bah bon courage à toi. Comment ça, il y a une date de reprise de Baxit, des infos? Ah, j'aimerais bien vous donner plus d'infos, mais pour l'instant, non, j'ai pas plus d'infos à vous donner. Nous travaillons d'arrache-pied pour que Baxit revienne, mais ça se fera pas avant plusieurs semaines. Ça demande beaucoup de travail, tout ça. Préparer la moula, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah, ça va être trop cool. J'ai appris il y a pas longtemps que certains agents de services vétérinaires de l'État étaient OPJ aussi. Oui, officier de police judiciaire. Bon, donc du coup, alors, attendez. On parle en ce moment de la réforme de la police judiciaire qui est dans les cartons, qui crée des débats, etc. Et moi, je vous avoue, je suis un peu largué. Sur la police judiciaire et sur cette réforme. Donc je vous propose qu'on essaye ensemble d'essayer d'en apprendre un peu plus sur la police judiciaire, son fonctionnement, et sur le projet de réforme, et sur les critiques, etc. Donc on va faire l'exercice de, on part de zéro, on sait pas trop, on essaie de se remettre un petit peu dans le truc de, attends, mais attends, 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 de quoi on parle? Quoi la police judiciaire? C'est quoi la différence avec la police normale? Et quel est le fuck? On va essayer d'apprendre un peu ça, lire des articles, lire des pages Wikipédia, etc. On se fait une petite fiche de révision. Soyons largués tous ensemble. Ouais. On va essayer d'être des bons citoyens pour participer au débat public. On va essayer d'apprendre, de se dire, attends, quel est le fuck? Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles, mais t'étais chez Host ce matin. Let's go, Wiki. Ouais, non, on va faire ça. Regarde. Police judiciaire. Hop. Police judiciaire sur Wikipédia. On va commencer par la base. Hein, on commence par Wikipédia. Police judiciaire en droit français. Quel est le fuck de quoi on parle? Ce truc. Ok? Ah oui, alors pour ceux qui savent pas, j'utilise une extension de navigateur pour Wikipédia qui s'appelle Wikiwand, qui a dont la seule, le seul but, c'est juste de changer la mise en page de Wikipédia, c'est tout. Ça change que ça. C'est juste plus agréable à lire, mais c'est Wikipédia, hein, le texte, tout est Wikipédia. C'est juste Wikiwand, c'est plus joli. Pour les gros consommateurs de Wikipédia comme moi, voilà. Donc vous pouvez l'avoir en noir, vous pouvez changer la police et tout, machin. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai jamais regardé les. Voilà, vous pouvez changer plein de trucs, on peut même changer la police. C'est le cas de le dire. On peut grossir, ah ouais, on peut réduire et tout. J'avais jamais vu. On peut élargir, on peut raccourcir. On peut justifier le texte. Ah, c'est bien ça. Je suis pour les justifications, moi. Attendez, je vais décaler un peu la cam. Voilà. Ah, pardon. Alors, police judiciaire, qu'est-ce que c'est? En France, la police judiciaire, la PJ, est définie par l'article 14 du Code de procédure pénale. Deux points, ouvrez les guillemets. Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, c'est d'accord, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Elle se distingue ainsi de la police administrative et ce, depuis le Code des délits et des peines de 1795, la police administrative étant l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Depuis le Code des délits et des. D'accord, ok. Bon. Ok, principe de fonctionnement. Code de procédure pénale, article 12. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. D'accord. Donc il y a plein d'agents qui, sous l'autorité du proc, sont chargés de ce qu'on appelle la police judiciaire. La police judiciaire peut intervenir sur le fondement d'une information judiciaire ou d'une enquête de police. L'enquête de police peut être une enquête de flagrance. Flagrance, ça veut dire flagrant délit. Quand vous constatez, quand un agent de police constate devant lui la commission d'une infraction, c'est un flagrant délit. C'est une enquête de flagrance. Donc ça peut aller très vite. Prévue pour les délits dont la commission est en cours ou vient de s'achever, ou une enquête préliminaire. C'est le cas le plus fréquent. Il existe également des régimes propres aux enquêtes ouvertes, pour rechercher des causes de la mort ou des blessures, ou pour les enquêtes de disparitions inquiétantes. Ok. La police judiciaire est exercée par la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane, les maires et leurs adjoints, la police municipale, mais aussi par certains corps de fonctionnaires qui disposent d'une compétence spéciale. Par exemple, les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'environnement, les agents de l'administration fiscale, les gardes champêtres et les gardes particuliers. Donc garde champêtre, je suppose que ça comprend les gardes chasse, les gardes pêche, je sais pas. Peut-être les gardes particuliers, sinon. Certaines fonctions de police judiciaire, oui, je sais pas. Sauf pour les agents ayant le statut de GAV, agent de police judiciaire adjoint, gendarme adjoint volontaire. C'est un militaire qui seconde les sous-officiers d'actifs dans les missions de gendarmerie nationale. Il est titulaire d'un contrat de volontaire d'une durée maximale de 6 ans qui lui permet d'acquérir une première expérience. D'accord. Bon, donc à l'exception de ces gendarmes adjoints volontaires, il y en a qui sont gendarmes volontaires dans le chat? Les agents de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens n'ont pas la qualification d'agent de police judiciaire. Ok. La liste des agents et de leurs prérogatives est édictée dans chaque article du code de procédure pénale relatif à la qualité concernée. Le personnel est divisé entre les officiers de police judiciaire, les OPJ, les agents de police judiciaire, les APJ, les agents de police judiciaire adjoints, les APJA, et les officiers des douanes judiciaires, ODJ. Ok. Les maires sont donc les seuls OPJ élus.
Ouais, avec leurs adjoints.
Salut, je l'ai été si jamais. Ok, 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 cool, cool, cool. Jusqu'en 1993, le préfet a eu des pouvoirs de police judiciaire. Ces pouvoirs ont été supprimés par la loi du 4 juin 93. Ok. Les préfets ne sont pas officiers de police judiciaire. D'accord, d'accord. Les officiers de police judiciaire et de douane judiciaire, pour exercer les attributions attachées à leur qualité, doivent être affectés à un emploi ayant des missions de police judiciaire et doivent avoir reçu une habilitation du procureur général du ressort dans lequel ils exercent. Ok, jusque-là, d'accord. Donc le procureur reconnaît la qualité d'OPJ, ok, d'accord. Enfin, d'agent, quoi. Les officiers de police judiciaire disposent d'une compétence générale de police judiciaire et ont, à la différence des agents et des agents adjoints, l'exclusivité des mesures les plus importantes, telles que le placement en garde à vue ou les réquisitions à la personne. Les officiers de douane judiciaire disposent d'une compétence d'attribution et mettent en œuvre les mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire, d'accord ? La compétence des officiers et des agents de police judiciaire s'inscrit dans un territoire. Ils peuvent néanmoins disposer de dérogations dans certains cas. Par exemple, ayant des compétences pour plusieurs tribunaux de grande instance et relevant donc des autorités de plusieurs procureurs comme la police régionale des transports en région parisienne ou les groupes d'intervention régionaux. Bon, on s'en branle, ok, d'accord. D'accord. Bref, de ce que je comprends, la police judiciaire, ça désigne pas tant un corps de fonctionnaires spécifiques qu'un ensemble d'agents publics qui sont investis de pouvoirs de police judiciaire sous l'autorité du procureur. Ok ? Donc, ce travail pour c'est pas un corps de policiers en fait, c'est plus compliqué, c'est plus large que ça. Ça recoupe les gendarmes, les policiers, les douaniers, les maires et leurs adjoints, la police municipale, les corps de fonctionnaires qui ont des prérogatives particulières, genre les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'environnement, etc. Donc la police judiciaire, c'est pas un corps de policiers, c'est un des actes de police dont le job est... dont le job est... Merde, attends, c'était écrit. Intervenir sur le fondement d'une information judiciaire. Non, mais ça, c'est le cadre d'intervention. Voilà, c'est ça. Constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, c'est mener des enquêtes, quoi, et rechercher les auteurs. Ok. En fait, c'est une qualification OPJ. Ouais, c'est ça. Officier de police judiciaire, c'est une qualification, c'est pas un... Ok, d'accord. Donc ça, c'est Wikipédia. Moi, je suis pas méga avancé. Hein. Tu vois, quand on parle de réforme de la police judiciaire, j'ai l'impression qu'on parle d'un corps de fonctionnaires un peu particulier. Alors, on va sur le site de la police nationale. Hop. Direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. La direction centrale de la police judiciaire, également désignée sous l'abréviation police judiciaire ou plus simplement PJ, est une direction active de la direction générale de la police nationale. Donc le DGPN, il s'occupe entre autres de la police judiciaire. D'accord, jusque-là d'accord. La police judiciaire est née au XXe siècle de la volonté commune du préfet Célestin Aignon et de Georges Clémenceau, dont l'effigie figure sur le célèbre logo de la DCPJ. Oui, c'est le tigre. Ça, Clémenceau, on l'appelait le tigre. C'est pour ça que c'est un tigre, le logo de la PJ. D'accord, ok. Dès leur création, les brigades régionales de police mobile, dites brigades du tigre, ont su utiliser les interventions et les progrès de la police technique et scientifique pour combattre, à armes égales, les bandes de malfaiteurs qui sévissaient alors dans le pays. La DCPJ est toujours à la pointe de la technologie en la matière. Elle dispose d'un état-major, de 7 services centraux spécialisés et de services déconcentrés, rassemblant au total près de 5300 fonctionnaires. Ce qu'on appelle un service déconcentré, ça veut dire dans les territoires. Les services centraux, c'est en gros, ça veut dire à Paris. C'est au niveau national et à Paris, les services centraux. Et les services déconcentrés, c'est les services centraux qui sont au niveau local, mais qui ne sont pas décentralisés, qui sont déconcentrés. C'est-à-dire que ça reste une compétence nationale, mais qui se trouve au niveau territorial. 5 300 fonctionnaires. Ok, donc la PJ, ça représente 5 300 fonctionnaires aujourd'hui. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire, à la prévention de la répression des formes spécialisées, organisées et transnationales de la délinquance et de la criminalité. Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de course. Ok. Elle participe activement à la lutte antiterroriste et à la coopération policière internationale, tout en restant au travers de ses structures centrales et territoriales le fer de lance de la lutte contre la criminalité organisée et la grande délinquance. Ok. Histoire de la police judiciaire, organisation et structure, ça va m'intéresser. Oh putain. Donc en gros, de ce que je comprends, la police judiciaire s'occupe de la lutte contre la grande criminalité et le crime organisé. C'est pas police secours, quoi. Police secours, c'est le 17. C'est les polices qui viennent au secours, qui répondent à sur appel, etc. Et qui se présentent pour constater des infractions, mettre fin à des troubles, etc. Donc ça, c'est police secours. T'as la police qui s'occupe de la route, donc ils font des contrôles routiers, etc. Surtout la gendarmerie. T'as la police de la brigade des mineurs qui s'occupe des enfants. T'as la brigade anticriminalité. Tu as le maintien de l'ordre avec les compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles, etc. Et la police judiciaire s'occupe pas des petites infractions. S'occupe pas du code de la route. S'occupe pas spécifiquement du code de la route. Des incivilités, des vols à l'étalage, etc. Ils s'occupent d'un niveau de criminalité plus important et ils mènent des enquêtes, etc. Ok. Ok, ok. Direction active. Alors, l'organisation et les structures de la direction centrale de la police judiciaire. Direction active de la Direction Générale de la Police Nationale, la Direction Centrale de la Police Judiciaire, également désignée sous l'abréviation Police Judiciaire ou PJ, comprend les services centraux situés au ministère de l'Intérieur et 12 services territoriaux, 9 directions interrégionales de la Police Judiciaire et 3 directions régionales de la Police Judiciaire, soit au total 5 300 fonctionnaires. À mon avis, c'est ça qui va être important. C'est les services territoriaux, je pense. Les policiers de la PJ ont une compétence territoriale qui n'est pas limitée au ressort d'un département, mais étendue soit à une ou plusieurs zones de défense, ou partie de celle-ci, soit à l'ensemble du territoire national. Donc dans les services centraux, qu'est-ce qu'on a ? On a l'état-major, bon ça d'accord. On a des sous-directions. Donc l'analyse et la coordination, la logistique opérationnelle, les groupes d'intervention régionaux, analyse stratégique de la criminalité organisée, investigation financière et fiscale, ok. Répression des faux monnayages, du faux monnayage, donc ceux qui font des faux billets. Trafic illicite des stupéfiants. Traite des êtres humains. Trafic de biens culturels, ok. Ou vol de tableaux, etc., machin. Grande délinquance financière, ok. Crime organisé. Du banditisme et des trafics, recherche de fugitifs, d'accord, répression des violences aux personnes, enquêtes économiques, assistance technique, d'accord, ok. Donc tout ça, ce sont les amphis à Paris qui coordonnent l'action dans leur truc spécialisé. Ok. La sous-direction antiterroriste, la SDAT, très célèbre, terrorisme international, terrorisme séparatiste, délinquance financière, division logistique opérationnelle, donc ça évidemment on se souvient, c'est la lutte contre le séparatisme corse, le TA, ok. La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui a été créée en 2014, ok. D'accord, d'accord. L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Section internet, plateforme d'harmonisation. Pharos, ouais, c'est eux qui s'occupent de Pharos, ouais. Ok, ok, d'accord, d'accord, d'accord. La division de l'anticipation et de l'analyse, ok. Ils font des rapports et ok sur la criminalité. Merci Talion pour ton resub. La division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique. Oh la vache. Police technique et scientifique. Ok.
La sous-direction des ressources et l'évaluation de la stratégie, d'accord. Service central des courses et des jeux. Donc eux, ils s'occupent des courses de chevaux et des tripots de poker illégaux. Ok. Surveillance générale des casinos et des cercles de jeux d'argent, d'accord. Division des courses, d'accord. La division des relations internationales, Interpol, espace Schengen, Europol, d'accord. Ok, donc ça jusque-là, c'était tout ce qui se passe à Paris. Tous les services centraux de la police judiciaire qui viennent en soutien, qui mènent des enquêtes, qui font de l'analyse, qui, les laboratoires, les tout ça, etc. Ok. Ok. Maintenant, on va s'intéresser aux services territoriaux. Parce que je pense que c'est là que se place surtout la réforme. Parce que comme on parle de préfet et tout, je suppose que c'est surtout les services territoriaux. Au total, là, on a parlé que de Paris, il n'y a que 5300 fonctionnaires. Hein, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas énorme. La direction régionale de la police judiciaire de Paris. Donc ça, c'est la préfecture de police de Paris qui est un peu spécialiste. Donc c'est la célèbre DRPJ. C'est une préfecture un peu particulière, Paris, puisque Paris, c'est la capitale. Donc le préfet de police, c'est un préfet un peu particulier qui a des pouvoirs supérieurs, machin et tout. Ok. Les directions interrégionales de la police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire. 9 directions interrégionales. Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Orléans, Rennes, Strasbourg et Pointe-à-Pitre. 3 directions régionales. Paris, Versailles, Ajaccio. Ok, d'accord. Ok. Chaque siège de DIPJ et DRPJ dispose de structures spécialisées correspondant aux différentes missions imparties à la police judiciaire. Division technique s'occupe de la documentation criminelle, des fichiers, de la diffusion de l'identité judiciaire. Ok. Une division criminelle. Une division économique et financière. Et 13 brigades de recherche et d'intervention. Ajaccio, Bayonne, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Strasbourg, Versailles. Ok. Ok. Et ensuite, on a les groupes d'intervention régionaux. Circulaire interministérielle mise en place au sein de chaque... Des groupes d'intervention régionaux afin de lutter contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent, source de l'insécurité et de la déstructuration sociale dans de nouveaux quartiers sensibles. En métropole, il existe aujourd'hui 36 groupes d'intervention régionaux. 23 ont les compétences calquées sur le ressort d'une région administrative. 8 sont détachés à la région Île-de-France avec une compétence départementale. Et 6 sont implantés outre-mer. Okay. Je ne comprends pas très bien. Bon. Ok. Ok, d'accord. Donc ça, c'est l'organisation de tout le bordel. Qu'est-ce qu'on a compris ? Pas grand-chose. Je suis nul en révision. Heureusement que j'ai pas passé les concours administratifs. Hein. Concours de police. Il y en a d'ailleurs qui préparent les concours dans le chat. Il y en a qui préparent les concours d'officiers de police, de commissaires, etc. Parce que ça faut l'apprendre par cœur hein, quand on prépare les concours. Hein. Là, on rigole, mais... Oui, en PTS. Il y a beaucoup d'acronymes, j'ai compris que ça. Ah, on adore les acronymes dans la police. J'ai eu concours de la fonction publique territoriale, ouais. Grand oral, entrée, école d'avocat. Dans l'armée aussi. Ah, l'armée, putain. Les sigles dans l'armée. Admissible officier l'année dernière. Bravo, c'est cool. Police technique et scientifique. Ok. Putain, ça fait beaucoup de trucs en tout cas. Donc la direction régionale, donc il y a Paris, c'est spécifique. Ensuite, il y a les directions interrégionales et il y a les groupes d'intervention régionaux. Ok, d'accord. Je reviens en arrière. Formation des personnels, non, ça je m'en fous un peu. Les missions, les services compétents, le cadre juridique d'enquête, les actes d'enquête. Les services compétents. La mission de police judiciaire est accomplie en France principalement par 3 services. La direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale de la police judiciaire qu'on vient de voir, et la sous-direction de la police judiciaire qui dépend de la gendarmerie nationale. Ces 3 entités relèvent du ministère de l'Intérieur. Le personnel chargé de ces missions est composé d'officiers de police judiciaire et d'agents de police judiciaire. La qualité d'OPJ, en raison de ses pouvoirs spécifiques, ne peut être exercée que par un nombre limité de policiers ayant satisfait des épreuves juridiques. Oui. Ah oui, le concours d'OPJ est très difficile. Hein. Concours d'OPJ, c'est de la procédure pénale. Les OPJ, c'est des gens qui ont le pouvoir de placer en garde à vue, par exemple. C'est pas rien. Hein. Donc, non, c'est vénère. Si on conclut, le gouvernement fait de la com. Alors toi, tu tires des conclusions au bout de 3 pages web que t'as lues. Tu sais que c'est pas bien, ça. Tu le sais. On en a déjà parlé. Faut arrêter ça. Donc, service compétent, d'accord. Cadre juridique d'enquête. Les enquêtes sont l'ensemble des recherches et des actes effectués selon les règles du code de procédure pénale. Les moyens d'investigation de la police sont différents selon les informations judiciaires, est ouverte ou non. D'accord. Quand il n'y a pas d'informations judiciaires, ils ont des pouvoirs d'enquête, mais pas tous. Et quand on ouvre une information judiciaire, de mémoire, hein, c'est le procureur, enfin c'est le magistrat instructeur qui ordonne à la police de récolter des informations pour éclairer la justice en vue éventuellement d'ouvrir une enquête plus poussée. Procureur ou juge d'instruction, ouais. Oui, c'est les magistrats, oui, magistrats instructeurs, comme on dit, ouais. La constatation des infractions à la loi pénale est une attribution propre de la police judiciaire, qu'elle exerce notamment par la réception des plaintes et des dénonciations prévues par le code de procédure pénale, mais aussi par d'autres moyens tels que la surveillance des milieux de malfaiteurs et des lieux propices à la commission d'infraction. Jusque-là, d'accord. Le rassemblement de preuves exige des attributions d'enquête que le code de procédure pénale confie à la police judiciaire. Transport sur lieu d'infraction, conservation des indices, perquisition et saisie, audition des témoins, vérification d'identité, interpellation, garde à vue, réquisition, infiltration de réseaux liés à la criminalité organisée, sonorisation de certains lieux et véhicules. Les actes attentatoires aux libertés individuelles ne sont permis que dans l'intérêt supérieur de la justice et de la manifestation de la vérité. C'est pourquoi ils sont strictement réglementés par la loi dans les cadres des enquêtes. Les actes attentatoires aux libertés individuelles, on parle par exemple des perquisitions. Donc on rentre dans ton domicile et on cherche des preuves. Le placement en garde à vue. On limite ta liberté de mouvement et de circulation. Et donc ça, effectivement, c'est très strictement encadré. Puis de toute façon, je vous rappelle que les actes d'enquête qui ne respectent pas la procédure sont contestables par un avocat qui peut faire annuler l'enquête si les policiers n'ont pas respecté des trucs comme ça, quoi. L'enquête de flagrance. Donc, est flagrante l'infraction qui se commet ou vient de se commettre ou dont l'auteur présumé dans un temps très voisin de l'action est poursuivi par la clameur publique. Ou est trouvé en possession d'objets ou présenté des indices qui l'accusent. Ce type d'enquête n'est possible que pour des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement. En raison de la coercition qui caractérise l'enquête de flagrance, sa durée est limitée à 8 jours, durée renouvelable éventuellement une fois. Poursuivi par la clameur publique. En gros, c'est au voleur, c'est ça une enquête de flagrance. Un policier qui fait la circulation, il entend au voleur, il se tourne, il voit une vieille dame qui crie et qui remue les bras, et il voit un mec en train de se barrer avec un sac à main sous le bras. Ça, c'est ce qu'on appelle une enquête de flagrance. C'est, voilà, il peut aller appréhender le mec. On est dans un cas de flagrant délit. C'est ça le truc. Et donc la vieille dame est mise en garde à vue. Enquête préliminaire. C'est un cadre non coercitif de l'activité judiciaire. Elle est diligentée pour les crimes et les délits qui ne sont pas flagrants et ne font pas l'objet d'une information judiciaire, ainsi que pour les contraventions. Sa durée n'est pas limitée. Ces opérations sont exercées sous la direction du ministère public, autrement appelé parquet, représenté par le procureur de la République. Donc effectivement, c'est les parquetiers qui demandent l'ouverture d'une enquête préliminaire pour dire « j'ai reçu une plainte disant qu'il y a eu un vol de véhicule ». Pour l'instant, on va faire une enquête préliminaire. On va commencer à récolter des preuves. On va regarder caméras de surveillance, témoignages de voisinage, ce genre de trucs, audition de témoins, machin. Pourquoi pas les moquettiers? Ok, donc ça c'est l'enquête préliminaire. Donc pour l'instant c'est non coercitif. Hein. Enquête préliminaire, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de. Pour l'instant on rassemble quelques éléments, on commence l'enquête quoi. Pourquoi c'est appelé le parquet? On appelle les magistrats du parquet parce qu'en fait ils sont debout. On appelle ça la magistrature debout aussi. Et ils sont debout sur le parquet du tribunal par opposition aux magistrats du siège qui eux sont assis. Les magistrats du siège, ce sont les magistrats, les formations de jugement, donc c'est le juge, le président du tribunal et ses éventuels adjoints, assesseurs, etc., whatever, qui sont là pour trancher. Mais le parquet représente le ministère public et ils sont traditionnellement debout. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle les magistrats du parquet, ils sont sur le parquet. Les magistrats du siège, ils sont sur les sièges. C'est aussi simple que ça. Hein. Je viens d'apprendre un truc. Vous savez pas? Ben voilà, le parquet, c'est... Historiquement, on appelle ça la magistrature debout, la magistrature assise. Et dans le jargon, on dit parquet, mais c'est que dans le jargon. Hein. Procéduralement, un avocat, il dit ministère public, procureur, juge d'instruction. C'est con comme raison. Bah non, c'est pas con. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'as besoin de... C'est pas con. Les mecs sont debout sur un parquet, on les appelle le parquet. Non, c'est, moi, je trouve pas ça si débile que ça. Je sais pas. Mais c'est du jargon. Hein. C'est un surnom qu'il leur est donné. Je pensais que Jean blaguait. Non. Ah non, je te jure. C'est simple et c'est pratique. On continue. Les fonctions de la police judiciaire après l'ouverture d'une information. Donc ça, c'était avant l'ouverture d'une information. S'il y a une information judiciaire qui est ouverte par un magistrat instructeur, dans certains cas, la mission de police judiciaire s'exerce non plus sous la direction du procureur de la République, mais sous celle du magistrat du siège spécialisé, le juge d'instruction. Dès lors que l'infraction constitue un crime ou un délit grave et complexe, le procureur de la République déclenche l'ouverture d'une information judiciaire qui a pour effet de confier l'instruction de l'affaire à un juge. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs pour diriger les investigations. Par commission rogatoire, le juge d'instruction peut demander à un officier de police judiciaire d'accomplir à sa place un ou plusieurs actes d'instruction. Cependant, certains actes ne peuvent leur être délégués. Interrogatoire et confrontation du mis en examen, désignation d'experts, délivrance de mandats, audition de la partie civile ou du témoin assisté s'ils en font la demande. Dans le cadre de l'enquête, la police dispose de plus ou moins d'autonomie opérationnelle selon l'étendue des enquêtes qui lui sont confiées par le juge d'instruction dans la commission rogatoire. Ok. Donc ça, c'est le fameux, quand vous entendez, ça je suis sûr que vous l'avez déjà entendu ou que j'avais déjà lu dans des articles, le mis en examen a été présenté au juge ce matin. Et bien en fait, l'interrogatoire est mené par le juge. L'OPJ ne peut pas faire l'interrogatoire lui-même, c'est le juge d'instruction lui-même qui reçoit dans son bureau le prévenu et qui peut lui signifier, je ne sais pas quoi, placement en détention provisoire, ce genre de truc. Bonjour Serge, 27 ans, stagiaire, sagittaire. Ok. Mais sinon, du reste, les OPJ... Par commission rogatoire, ça veut dire que le magistrat instructeur délègue à un OPJ le pouvoir de faire un truc en son nom. Bon, une perquisition, un truc comme ça. D'accord, ok, bon ça d'accord, donc, ça c'est les actes d'enquête. Bon ok, d'accord. Est-ce que c'est un peu plus clair ou est-ce que ça fait que vous embrouiller jusque-là? T'inquiète, moi ça va. Ok, embrouille. Le placement en détention provisoire, c'est le juge de la liberté et de la détention, pas le juge d'instruction. Ah oui, c'est vrai, t'as raison en plus. Oui, c'est vrai. C'est clair comme de l'eau de gauche. J'ai retenu le parquet perso. 100% embrouille. Mais donc la loi, c'est quoi? C'est Batman. La loi, c'est Batman. Batman qui agit en total mépris de la procédure pénale, hein. Batman, il est absolument pas, il mène pas du tout des actes d'enquête sur commission rogatoire. Batman, il prend des décisions tout seul, il s'auto-saisit, il prend des mesures coercitives au mépris total des droits et libertés des prévenus et des mises en examen. Quoi, Batman a un statut d'OPJ? Ouais, mais bénévole. Volontaire. Auto-attribué. Coupable de harcèlement sur le Joker. En plus, le Joker, il a jamais demandé un avocat. Il est con, hein. Faut jamais parler en interrogatoire, faut demander un avocat. Il a son bas de diplôme. Bon, donc bref, police judiciaire. On va essayer de lire un article sur cette réforme. J'ai un article qui date de la fin du mois d'août. Donc il y a un mois et demi qui essaye de parler de cette fameuse réforme. Un article du Le Monde. Écrit par Antoine Albertini, dans les rangs de la police judiciaire, la réforme de la police nationale continue de heurter. La création de l'Association nationale de la police judiciaire, apolitique et sans étiquette syndicale, a été annoncée jeudi. Elle entend défendre l'indépendance de la PJ face au projet de réorganisation voulu par le ministère de l'Intérieur. Dans le monde hiérarchisé de la police, l'initiative n'a pas vraiment soulevé d'enthousiasme des grands patrons. Tu m'étonnes. Et à 4 mois d'élections professionnelles qui s'annoncent très disputées, elle laisse aussi dubitative la plupart des organisations professionnelles de policiers. Après une assemblée générale virtuelle, sur une messagerie cryptée organisée le 17 août, les statuts de l'Association nationale de la police judiciaire, apolitique et sans étiquette syndicale, ont été déposés en début de semaine suivante à la préfecture des Yvelines. Objet social, assurer la défense et promouvoir la place des enquêteurs de police judiciaire et de toute personne amenée à concourir à une mission de police judiciaire dans la procédure pénale. Ok. Ni révolte ni révolution, mais à coup sûr une première depuis la création des brigades mobiles par Georges Clemenceau, alors ministre de l'Intérieur en 1907. Donc c'est bon, c'est une association, c'est de, j'allais dire corporatiste, mais sans mauvais, enfin sans que ce soit. Sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, hein. C'est le corps de la police judiciaire qui crée une assoce pour se défendre dans la réorganisation interne. Donc c'est pas à proprement parler syndical, c'est spécifique. Okay. Sacrifice de la police judiciaire, réforme opaque et mortifère. Jeudi 25 août, les termes utilisés dans le communiqué qui a officialisé la création de l'association témoignent de l'inquiétude, sinon de la colère, face au vaste projet de réorganisation de la police, voulu par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et mis en œuvre par le directeur général de la police nationale Frédéric Vaux. Le DGPN, directeur général de la police nationale, c'est un mec extrêmement important, c'est le plus haut gradé de la police. Sous l'autorité du ministre Gérald Darmanin, il est le plus haut policier qui chapeaute l'organisation de la police nationale partout sur le territoire. Et donc c'est lui, en tant que haut fonctionnaire, qui est chargé par Gérald Darmanin de mettre en œuvre la réforme de la police nationale. Gérald Darmanin fixe les objectifs politiques, il les assume devant les députés, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Mercier. Et c'est Frédéric Vaux qui met en place techniquement le truc. Il est la marionnette de Darmanin, vulgairement dit. Oui, c'est très vulgairement dit, parce qu'en fait, c'est un haut fonctionnaire qui est sous l'autorité du pouvoir politique. Vous savez, dans beaucoup de ministères, il y a. Vous connaissez le ministre, celui qui passe à la télé, et puis vous connaissez moins, c'est normal, les hauts fonctionnaires qui dirigent le ministère, mais du point de vue de l'administration. Donc vous avez le directeur général de la santé, vous vous en souvenez, c'était Jérôme Salomon pendant la crise du Covid, qui faisait des conférences de presse. Vous avez le directeur général de l'éducation nationale, le DGEN. Vous avez le directeur général de la police nationale. Vous avez le directeur général, je sais pas moi, à peu près tous les ministères, il y a une hiérarchie administrative. Cette réforme prévoit la création d'un responsable unique de tous les services de police dans chaque département. Alors, la fameuse réforme, attends. La réforme prévoit la création d'un responsable unique de tous les services de police dans chaque département afin de mettre un terme au fonctionnement en tuyau d'orgue de la police, où chaque service ne rencontre qu'à sa direction centrale. D'accord. La PJ qui cultive son indépendance et traite le haut du spectre de la criminalité, il serait absorbé dans une filière unique consacrée à l'investigation, aux côtés de services d'enquête dépendants de la sécurité publique qui encaissent le choc de la délinquance du quotidien. Une telle fusion, estime la quasi-totalité des fonctionnaires de la PJ, condamnerait leur maison à une disparition pure et simple. D'accord. Ok, ok. D'accord. Donc en fait, le ministère de l'Intérieur, comme d'autres ministères, a un problème organisationnel. Enfin, c'est jugé comme un problème. C'est le fameux fonctionnement en silo. J'ai vu ça dans d'autres ministères. Hein. C'est pas spécifique à la police. C'est en gros, au niveau territorial, dans les départements, il y a différents services du même ministère qui bossent, mais qui ne rendent compte hiérarchiquement que à leur direction centrale à Paris. Et du coup, au niveau local, pas comme au niveau national, parfois c'est le bordel, ils n'arrivent pas à se parler, à travailler ensemble, c'est le dawa, etc. Et du coup, là, la volonté de la réforme, c'est d'essayer de lutter contre cette logique de silo un peu relou et de mettre dans chaque département un responsable de l'ensemble des services de police qui, du coup, forcerait les services à bosser ensemble et la PJ de bosser avec, du coup, les autres services de police, y compris ceux qui s'occupent de la délinquance du quotidien, etc. Et donc, la police judiciaire craint pour son indépendance, on verra ça plus tard dans l'article je pense, compte tenu du fait que leurs missions sont un peu spécifiques et sont placées directement sous l'autorité du procureur et pas de la hiérarchie policière interne. Ok. Je crois que je commence à comprendre. Ça limiterait les guerres de chapelle. Oui, aussi, sans doute. Oui, bah vous avez bien vu le document qu'on a lu juste avant sur l'organisation de la police nationale, c'est un bordel. Le nombre de chapelles qu'il y a, rien qu'au niveau national, les directions centrales. J'imagine vraiment deux collègues policiers à la machine à café le matin qui disent « Et tu bosses pour qui, toi ?» Bah moi, je suis dans le service de machin d'analyse de la délinquance et du coup, je suis sous l'autorité de la direction centrale machin et toi ?» Ah non, bah moi, je m'occupe plutôt de la direction de la récolte de renseignements et donc du coup, je dépends de l'autre bureau à côté. Et du coup, les mecs peuvent pas bosser ensemble parce que c'est le bordel. Je vois bien le genre de discussion à la machine à café. Je comprends pas, la PJ rend des comptes à ses supérieurs dans la police ou au procureur ? C'est une bonne question. De ce que je comprends, ils sont fonctionnellement sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans la police, de leur direction centrale, la DRPJ. Ça c'est la direction régionale, mais je parlais plutôt de la direction centrale, la DCPJ. Mais ça c'est fonctionnellement, et d'un point de vue opérationnel, c'est en lien direct avec le magistrat, sous l'autorité du proc. Donc en fait, ils ont une co-tutelle, mais ça c'est pas les seuls, hein, c'est... Impossible, ils n'ont pas la même machine à café. D'accord, donc ils ont peur de la disparition pure et simple de la police judiciaire qui serait noyée avec les autres directions de la police nationale au niveau départemental. Ok. Le transfert de 4000 fonctionnaires de police judiciaire pour traiter les 3,5 millions de procédures enregistrées par la sécurité publique chaque année entraînerait peut-être une amélioration ponctuelle et limitée à certains endroits, observe Yann Bozin, président de la NPJ. Mais à quel prix ? L'abandon du spectre haut de la criminalité complexe, qui est notre cœur de métier, et où la PJ bénéficie d'une expertise unanimement reconnue. Cette réforme prétend lutter contre la délinquance du quotidien, mais quand la PJ interpelle une tête de réseau, ce sont 100 infractions qui ne seront pas commises dans la rue. Donc le président de cette association nationale de défense de la police judiciaire reconnaît qu'effectivement, ça pourrait être pratique ponctuellement à certains endroits, cette réforme. Mais à quel prix ? L'abandon du spectre haut de la criminalité complexe. En gros, on a une expertise, c'est de s'occuper des têtes de réseau, des mafieux, des gens qui sont à la tête des réseaux criminels. Et là, on se retrouverait à bosser sur la délinquance du quotidien en même temps que les autres. Et du coup, on perdrait cette expertise-là. Merci Nissa pour ton prime, merci beaucoup. Ok, ok, donc je comprends. Ce double argument d'une perte d'autonomie et d'un affaissement des compétences de service de pointe a convaincu. Outre les 157 membres fondateurs de l'association, 140 adhérents ont adressé le règlement de leur cotisation de 10 euros en moins de 48 heures. D'accord. Au mois de juillet, déjà, la fronde avait pris une tournure publique avec les rapports sur les risques psychosociaux adressés par 37 fonctionnaires de la police judiciaire toulonnaise, à leur hiérarchie, bientôt imités par plus d'un millier de leurs collègues à travers le pays. Ce mouvement d'humeur avait été accompagné de positions tranchées de la part de la Conférence nationale des procureurs de la République et de l'Association française des magistrats instructeurs. Deux organisations plus que dubitatives quant à la pertinence de la réforme. Cet accompagnement est désormais revendiqué, assure Frédéric Massé, secrétaire général de l'Association des magistrats instructeurs. Alors que la police judiciaire est d'autant plus menacée que son sort intéresse peu les syndicats, taiseux sur un sujet qui concerne les effectifs faibles d'un point de vue numérique. D'accord. Selon M. Massé, la constitution de l'association de la PJ devrait notamment permettre aux policiers concernés d'éviter l'écueil du devoir de réserve en permettant leur expression publique. D'accord, ok. Donc ce que dit le magistrat instructeur, c'est en fait, la police judiciaire, ça représente 4000 gus en France. C'est très peu. Et du coup, les syndicats de policiers s'en branlent. C'est pas leur problème. Ils perdent pas trop de temps à les défendre parce qu'en fait, ça représente personne. Ça doit être la bourgeoisie interne à la police. Pardon de le dire comme ça, mais... La PJ, c'est les mecs qui s'occupent des têtes de réseau pendant que nous, on s'occupe des petits délinquants, c'est ça? Donc du coup, ouais, les syndicats, ils s'intéressent assez peu au sort de la police judiciaire. Donc c'est pour ça, du coup, que la police judiciaire, ils ont créé leur propre association en disant « bah faut qu'on se défende, faut pas qu'on nous emmerde avec le devoir de réserve, donc on va créer une association qui va parler en notre nom. » Les OPJ ont fait des études en plus. Alors ça pareil, hein, ça j'ai connu dans plusieurs ministères. Les petites guéguerres de niveau de diplôme et de reconnaissance, machin. C'est l'élite un peu. Mais ça m'étonne pas. Hein. La communication apparaît du reste comme un enjeu crucial du débat en cours. Dans une note datée du 8 juin, dont Le Monde a pu prendre connaissance, la Direction Générale de la Police Nationale évoque noir sur blanc les enjeux de cette volonté de mener la bataille des perceptions pour convaincre les troupes, comme l'opinion, du bien fondé de son projet. Aussi préconise-t-elle la création de divisions de la lutte contre la criminalité du quotidien, une terminologie visant à remplacer l'expression plus usuelle de délinquance du quotidien. Loin d'être une simple figure de style, donc on va parler de criminalité du quotidien plutôt que délinquance, vous me direz, on s'en branle, c'est juste un changement de mot, pas très important, mais loin d'être une simple figure de style, l'objectif assumé à travers ce concept est de montrer que la DGPN accorde la même importance au traitement de ce champ criminel qu'à celui de la criminalité grave et organisée. Pour y parvenir, cela suppose de réhabiliter et d'élever au rang des priorités l'enquête judiciaire sur les petites et moyennes délinquances dont l'impact sur le vivre ensemble est dévastateur. Ça veut dire que paradoxalement, la DGPN... Attends. C'est-à-dire qu'en fait, le mot criminalité était un mot qui était un peu réservé à la police judiciaire avant, qui du coup était content parce que c'était un truc un peu haut level, tu vois. Nous, on s'occupe de la criminalité, pas de la délinquance. Délinquance, c'est pour les collègues policiers qui ont fait moins d'études que nous, qui s'occupent là des petits trafiquants et tout. Nous, on s'occupe des têtes de pont, ok. Et donc, du coup, la DGPN veut changer le mot délinquance du quotidien par criminalité du quotidien pour reconnaître les policiers de bas étage en leur disant « vous faites un travail important sur la criminalité ». Et du coup, la police judiciaire, elle est pas contente parce que du coup... Parce que du coup, c'est des petits policiers moins bien formés qui vont pouvoir se prévaloir de lutte contre la criminalité. Et du coup, ça les énerve. Alors ça, c'est un truc d'ego. J'en ai déjà vu. Hein. Des trucs d'ego comme ça. La guerre d'ego. Dans des ministères, j'en ai déjà vu des trucs comme ça. Hein. Des corps de fonctionnaires qui ne supportent pas quand tu revalorises des fonctionnaires plus bas dans l'échelle que eux. Et eux, ils estiment que du coup, c'est une dilution. Classique shit. C'était sur la réforme des rythmes scolaires quand on avait revalorisé les animateurs, périscolaire et les ATSEM, qu'on avait des enseignants qui faisaient la gueule parce que... quand même. Non mais quand même. Quand même quoi ? Donc ouais, non, je connais. Est-ce que c'est pas aussi pour criminaliser de plus en plus ce qui devrait être un délit? Je sais pas. C'est comme les subs avec les non-subs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Si je revalorise les non-subs de la chaîne, les subs vont se mettre à gueuler. En disant, comment ça ? Non mais attends, nous on est un peu l'élite. Qu'est-ce que c'est que cette bande de veaux là, qui se prétend, je sais pas quoi Et puis quoi encore, ils vont avoir un badge devant leur pseudo aussi. Calmez-vous, commencez pas. Hein. Je trouve que cette analyse est très réductrice. Ah oui, c'est très réduit. C'est l'un des aspects du truc, mais c'est parce qu'on est en train de lire l'article qui parle de ça. Merci Neta, qui offre un sub à Rached, qui du coup fait partie de l'élite. Ah, c'est parce que Rached, c'est parce que t'avais dit fuck les subs, c'est ça ? Bah félicitations, t'en es un maintenant. Félicitations. Voilà, tu fais partie de l'élite. Qu'est-ce que vous êtes cons. Concentrez-vous, bordel. Putain, on est en train de lire un article, c'est important. Donc voilà, on élève au rang de priorité. Donc ça, c'est, attention, c'est ce que dit la DGPN. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est la réalité. C'est les éléments de langage de la DGPN qui qualifient du coup en disant on revalorise les gens qui luttent contre la délinquance du quotidien en disant que maintenant ils s'occupent de la criminalité du quotidien pour réhabiliter et élever au rang de priorité l'enquête judiciaire sur la petite et la moyenne délinquance dont l'impact sur le vivre ensemble est dévastateur. Accusé d'un déficit de concertation depuis le lancement du projet, lancé avec la parution du livre blanc sur la sécurité intérieure en novembre 2020, la DGPN poursuit désormais une série de consultations étoffées. Le 8 juillet, une réunion destinée à marquer le lancement officiel des travaux déconcentrés relatifs aux réflexions sur la nouvelle organisation policière a ainsi été organisée au siège de la direction interministérielle de la transformation publique à Paris, la DITP, la fameuse. L'ensemble des directeurs zonaux de tous les services de police, sécurité publique, PJ, police aux frontières, CRS, ont eu l'occasion de s'y familiariser avec les arcanes du projet. Une fois n'est pas coutume, le compte-rendu de cette réunion a été largement diffusé au sein de l'institution sous la forme d'une plaquette de 3 pages, illustrée par des photographies en couleur, dont le contenu n'échappe pas toujours au lignifiant registre d'une technolangue à l'usage des consultants, la réforme devenant notamment rendre possible un décloisonnement favorisant les synergies de transversalité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Favorise les synergies en mettant un seul responsable au niveau local pour éviter le côté silo du ministère. Ok. Traduction dans la note du 8 juin, l'objectif poursuivi par le projet en cours viserait avant tout à optimiser l'emploi des ressources en supprimant les redondances inutiles et autres doublons et à prévenir le risque de concurrence malsaine ou encore de conflits négatifs de compétences entre les services. Les fameuses guéguerres de chapelle qui font perdre du temps à tout le monde, qui prennent de l'énergie, là où les fonctionnaires, du coup, ils... voilà. La police a clairement besoin d'évoluer, admet Christophe Rouget, le secrétaire national du syndicat SCI-SCFDT, majoritaire chez les officiers. Les directions actuelles se parlent peu, les effectifs sont fragmentés, mais on ne peut conduire une réforme d'une telle ampleur sur un coin de table en quelques semaines. D'après M. Rouget, dans l'état actuel du projet, les compétences de la police judiciaire se trouveraient diluées, sans budget identifié ni expertise en matière de ressources humaines. C'est le flou chaque fois qu'on demande des précisions sur la doctrine ou le budget, renchérit M. Bozin, le président de l'association de la police judiciaire. On nous répond qu'on verra plus tard. Une réunion des responsables de la police judiciaire, prévue le 1er septembre en présence de M. Darmanin, permettra peut-être d'apporter les réponses à ces interrogations. Avec une nouvelle question, le ministre de l'Intérieur saura-t-il apaiser les craintes de la police judiciaire ou ordonnera-t-il à ses chefs de rétablir l'ordre dans les rangs ? L'article que je viens de lire, il a été publié à la fin du mois d'août. On va lire d'autres articles et vous allez voir que Gérald Darmanin a fait le choix de demander à ses chefs, d'ordonner à ses chefs de rétablir l'ordre dans les rangs. Et ça, c'est pas passé auprès de la PJ. D'où la montée des tensions qu'on a aujourd'hui. D'où le fait que toute la gauche défend la police judiciaire. L'élite de la police, finalement. Hop, on va lire une tribune, tiens. On va lire une tribune qui est parue à peu près en même temps, à la fin du mois d'août. Hop. On va lire une tribune qui a été publiée au mois d'août, justement contre le projet de réforme du gouvernement. Le projet de réforme de la police judiciaire menace l'efficacité des enquêtes et l'indépendance de la justice. Présentée comme une simple réorganisation, cette réforme va priver l'État des moyens de lutter contre le crime organisé et la délinquance financière. Dénonce un collectif de magistrats, de policiers et de citoyens dans une tribune au Monde. 5000 enquêteurs et personnels de soutien de la police judiciaire travaillent quotidiennement à élucider les crimes et délits qui portent le plus gravement atteinte à notre pacte social. On parle des meurtres en bande organisée, des braquages à main armée, de la traite des êtres humains, de la corruption, de la fraude fiscale, de l'escroquerie massive, des viols en série, des trafics d'images pédophiles, du trafic de drogue ou d'armes, etc. Sous la direction et le contrôle des procureurs de la République ou des juges d'instruction. Parallèlement, les services de police de la sécurité publique, placés sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique, le DDSP, traitent de la petite et moyenne délinquance. Affaires souvent simples ou de traitement plus rapide. Les vols, les violences, les usages de stupéfiants. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la hiérarchie. Il y a la police de la délinquance du quotidien, qui s'occupe des trucs un peu quotidiens. Et au-dessus, il y a la PJ, qui s'occupe des trucs graves. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis la création des Brigades du Tigre, l'ancêtre de la PJ. La nécessité de disposer d'une police spécialisée, affranchie des limites territoriales des départements et disposant d'un budget et d'effectifs sanctuarisés, est plus forte que jamais face à des réseaux criminels qui ne s'encombrent d'aucune frontière. Le ministre de l'Intérieur s'apprête pourtant à revenir à une départementalisation de la police judiciaire à compter de 2023, en unifiant le commandement des différents services de police, donc PJ, police aux frontières, sécurité publique, renseignement, sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale, le DDPN. Appelé à devenir le seul interlocuteur du préfet sur les questions touchant à la sécurité intérieure. Ok. Derrière cette réforme, présentée comme une simple réorganisation, se dissimulent toutefois des changements majeurs portant atteinte à l'efficacité des enquêtes et à l'indépendance de la justice. Ok. Elle permettra d'abord l'absorption de la PJ par la sécurité publique et sacrifiera une filière d'excellence sur l'autel du traitement de masse de la délinquance du quotidien. L'élite de la police va bosser avec la police du quotidien. Avec les bas-fonds de la police. Non, les bas-fonds de la police vont absorber la police judiciaire. Va la diluer. Merci, Diplura. Ok. Le directeur départemental de la police nationale pourra en effet être incité à orienter les moyens de la PJ en fonction des critères opportunistes. Mission assurant de meilleurs retours statistiques, exigences des élus, résorption du contentieux de masse. C'est privilégier l'arrestation du petit trafiquant vite remplacé plutôt que le démantèlement des réseaux ou du vendeur à la sauvette plutôt que de ceux qui l'exploitent. C'est le choix de la lutte contre le sentiment d'insécurité et non contre l'insécurité elle-même. C'est surtout un coup fatal à la lutte contre la délinquance économique et financière, déjà si mal en point. Ok. L'enjeu est aussi celui de la protection du secret des enquêtes. Grâce au lien direct DDPN-préfet, donc le directeur départemental de la police nationale sera en lien direct avec le préfet, les enquêtes sensibles seront suivies en temps réel par l'autorité préfectorale. Qui peut sérieusement croire que le pouvoir exécutif s'interdira toute remontée d'informations sur les enquêtes en cours ? Tu m'étonnes. Ce commandement unifié va devenir une arme redoutable contre l'efficacité de certaines enquêtes en prévenant, par exemple, des personnes susceptibles d'être inquiétées ou en refusant d'autoriser des enquêteurs à assister le juge d'instruction pour une perquisition, pratique que l'on a déjà connue. Ah ouais, putain, ça menace fort. Ça menace fort. En gros, on peut pas faire confiance au préfet. Le préfet, il suffit que le préfet il soit un peu de mèche, il soit un peu mouillé avec les réseaux mafieux du coin, ce qui peut arriver. Il pourra prévenir à l'avance ses potes. Attention, il y a une perquisition qui va arriver. Je suis au courant de l'enquête. Mon collègue, le DDPN, m'a prévenu que la PJ était en train d'enquêter sur toi. Fais disparaître les preuves, frère. Hop. L'organisation de la PJ mettait les policiers à distance des partenaires locaux en préservant leur impartialité. La culture de la sécurité publique est au contraire celle du partenariat et des échanges permanents avec tous les interlocuteurs institutionnels, c'est vrai. Cette proximité indispensable en sécurité publique est très problématique en matière de police judiciaire. Ah, c'est intéressant, d'accord, je comprends l'argument. Non, non, c'est intéressant. En gros, les policiers de la sécurité publique, donc de la police du quotidien, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est normal qu'ils soient en lien avec le préfet, avec les élus locaux. C'est leur job, en fait. Ça a du sens. C'est justement, et là, c'est nécessaire même. La police judiciaire, elle était volontairement à distance de ces trucs-là. Et ça garantissait son impartialité et surtout son indépendance et son autonomie. Donc la proximité indispensable en sécurité publique, elle est très problématique en matière de police judiciaire. Il faut pas que, d'après les gens qui ont signé cette tribune, il ne faut pas que les agents de police judiciaire soient en lien direct avec tous les interlocuteurs du territoire, notamment le préfet, les élus locaux et tout. D'accord. Les magistrats ne seront plus assurés de pouvoir choisir le service d'enquête. Les magistrats ne seront plus assurés de pouvoir choisir le service d'enquête, le DDPN étant matériellement le seul décisionnaire de la répartition des dossiers et des moyens dans les services. À cet égard, le premier retour de l'expérimentation conduite depuis janvier 2021 dans 8 départements sont alarmants. L'autorité judiciaire est identifiée comme un simple gestionnaire de flux et les priorités des politiques pénales définies par le procureur ne sont pas respectées. Si un procureur de la République décide de faire de la lutte contre les atteintes à l'environnement une priorité, le DDPN pourra ainsi l'en empêcher, en invoquant une situation de fait imparable. Désolé, on n'a pas d'enquêteur disponible. On ne peut pas s'occuper des arbres et des oiseaux. Ok, d'accord. L'autorité judiciaire n'aurait alors plus d'autorité que de nom. Et de nombreux pans de la délinquance, peu visibles médiatiquement, ne pourraient plus être traités. Cette réforme, en cours d'expérimentation, mérite-t-elle déjà d'être généralisée alors même que l'autorité judiciaire y est partiellement hostile et que de nombreux services de police judiciaire expriment les mêmes craintes? De manière désormais habituelle, les mesures gestionnaires se succèdent dans les services publics et l'exécutif écarte, sans même y répondre, les alertes des praticiens, impose une expérimentation de la pérennie et la pérennise, quels que soient les écueils déjà rencontrés. Alors qu'il faudrait combattre les crises de vocation dans l'investigation et doter la justice et la police de moyens supplémentaires pour mener les enquêtes de qualité contre des formes de grande criminalité en mutation permanente. Ce projet vient sonner le glas de la police judiciaire et priver l'autorité judiciaire de ses moyens essentiels. La responsabilité politique de l'exécutif est immense, car les enjeux sont l'indépendance de la justice et l'efficacité de la lutte contre la grande criminalité et la délinquance en col blanc. Il est encore temps d'en débattre démocratiquement. Donc c'est Yann Bozin, dont on a déjà parlé, président de l'Association nationale de la police judiciaire, Flavien Benazet, FSU Intérieur, FSU c'est Fédération syndicale unitaire, c'est un syndicat, Marion Caquel, Association française des magistrats instructeurs, Céline Parisot, Union syndicale des magistrats, l'USM, Kim Reflet, syndicat de la magistrature. Ok. Donc ça c'était une tribune à charge contre ce projet de réorganisation. C'est bizarre de faire des grandes réformes sans les retours des entités concernées. Je sais pas où ça en est. Moi, j'ai entendu hier Gérald Darmanin nous dire que la réforme n'était pas encore totalement ficelée, que les retours étaient encore en cours et que le ministère continuait à travailler sur les expérimentations. Donc ça, vous avez compris, hein, y a une expérimentation en cours et le gouvernement réfléchit à généraliser le truc. Bon, moi, je sais pas vous, mais moi, ça commence à devenir un peu plus clair, hein, cette histoire de réforme de la PJ. J'en comprends la logique du côté du ministère, hein, du côté de la DGPN, de pourquoi ils le font, de l'intérêt qu'ils y voient, etc. Je comprends l'idée. Je comprends aussi les arguments contre. Je comprends pourquoi les magistrats sont inquiets. Je comprends pourquoi la police judiciaire est inquiète. Il y a différentes raisons. Tout ça est un peu entremêlé. Mais c'est pas inintéressant. C'est bien ou pas? J'en sais rien, chacun se fait son opinion. Je sais pas. Je comprends l'idée de la réforme. Je vois l'importance de faire fonctionner les services les uns avec les autres et d'éviter les guerres de chapelle et le silotage dans les ministères. Ça, je comprends l'idée. Mais je vois aussi les écueils que ça crée, notamment sur l'indépendance de la justice, la lutte contre la délinquance en col blanc, etc. Un résumé ? Un résumé, pour faire simple. La police judiciaire, c'est les enquêteurs qui travaillent sur la grande criminalité, sur les têtes de réseau, sur les trucs les plus importants. Ils ne s'occupent pas de la police du quotidien. Ça, c'est géré par d'autres services de police qui s'appellent les services de la sécurité publique. Au niveau départemental, les services de sécurité publique sont sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale et la PJ, elle, n'est pas sous l'autorité d'un directeur de la police nationale. Ils ont leur propre organisation interne, ils sont assez dissociés du reste de la police nationale. Le projet de la réforme du ministère de l'Intérieur, c'est de placer fonctionnellement la police judiciaire sous la responsabilité du directeur départemental de la police nationale qui du coup coordonnerait l'ensemble des services de police. Ça permettrait de mieux travailler en lien les uns avec les autres et ça permettrait à la police de la sécurité publique de mieux travailler aussi sur la criminalité intermédiaire, les crimes et les délits, tout en laissant la PJ bosser sur les têtes de réseau. Donc ça permettrait d'éviter un fonctionnement en silo qu'on a dans beaucoup de ministères, notamment au ministère de l'Intérieur, où en fait chacun répond à une direction nationale différente, les directions ne bossent pas les unes avec les autres, c'est le bordel, personne ne se parle, on perd du temps et de l'énergie, il y a des guerres de chapelle tout le temps. Sauf que la police judiciaire est inquiète là-dessus parce qu'elle explique que placer la police judiciaire sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale, ça lui retire une forme d'indépendance qu'elle avait jusque-là parce qu'elle ne travaillait pratiquement que sous l'autorité du procureur de la République. Procureur et juge d'instruction qui étaient en gros les seuls à pouvoir dire à la police judiciaire, aux OPJ, ce sur quoi ils allaient enquêter, comment ils allaient enquêter et ce qu'ils allaient faire. Ce qui est très important parce qu'il y a un principe d'indépendance de la justice, même si le parquet, c'est pas le truc le plus indépendant du monde, mais c'est quand même plus indépendant que la DGPN. Donc il y a une crainte de la part des officiers de police judiciaire d'être dilués au niveau départemental avec les autres services de police et du coup ne plus voir respecter leurs spécificités, leur savoir-faire et leur autonomie. J'ai pas compris ce que ça veut dire PJ. C'est la police judiciaire, PJ. Merci Kid Amnésiaque. Merci Sinistra. Donc voilà. Les agents de la PJ près de la retraite forment la police du terrain. La police judiciaire, c'est pas des agents de terrain. Hein. Il faut pas leur demander à eux de former les policiers sur le terrain. C'est pas leur métier. Hein. La police judiciaire, c'est des enquêteurs. Ils travaillent sur la délinquance financière, ils travaillent sur la criminalité organisée, sur de la mafia, sur du trafic de drogue à grande échelle, etc. Et c'est pédopornographie et tout, ils font tomber des réseaux. Un officier de police judiciaire, c'est pas le mec le plus capé pour former des agents de la brigade anticriminalité, maintien de l'ordre et tout. Pas leur métier, hein. Est-ce que, comme on a toujours tendance à le dire souvent, toutes les expérimentations ne sont jamais abandonnées et mènent toujours à une réforme ? Non. Alors, j'en ai vu des expérimentations abandonnées. On en a eu plus d'une. En général, c'est abandonné en catimini, mais... Je trouve que les manifs policières actuelles sont très peu mises en lumière par la télévision. Bah, tu peux augmenter la luminosité de ton téléviseur, si tu veux. Non, je déconne. Non, j'en sais rien, je sais pas, je regarde pas la télé. Je m'en fous. Est-ce qu'il y a juste la PJ qui est inquiétée par la réforme ? De ce que je vois, oui. Alors, deux autres articles, hop, sur le même sujet. Hop. Le directeur de la police nationale veut apaiser la colère de la police judiciaire. Donc là, on a vu les tensions, on était à la fin du mois d'août, c'était tendu et tout machin. Là, on va regarder... comment réagit le ministère pour essayer d'apaiser les tensions. Confronté à une fronde de la PJ, Frédéric Vaux tente de convaincre du bien fondé de sa réforme dans un courrier adressé aux enquêteurs. Toujours fidèle à la PJ, la mention manuscrite vient conclure un long courrier adressé par le directeur général de la police nationale à l'ensemble des effectifs de la police judiciaire, mardi 30 août, en plein mouvement de fronde contre un vaste projet de réorganisation. Le procédé, rarissime, tient de l'opération de déminage et de communication de crise avec ce qu'il faut d'affectifs. En affirmant sa fidélité renouvelée à la PJ, M. Vaux rappelle son propre parcours de 30 années, jalonné de postes les plus prestigieux et souvent les plus exposés, de cette maison où compte la légende des grands flics. Les stupes de Marseille, la Corse, la sous-direction antiterroriste, jusqu'à être nommé numéro 2 de la direction centrale avant un passage par la préfectorale. Ah d'accord, donc le DGPN, Frédéric Vaux, il est passé par la PJ pendant 30 ans en fait. Donc il sait ce que c'est que la PJ lui, il est t'inquiète. Il a été à la SDAT, il a été en Corse, il a été à Marseille, t'inquiète. D'où l'incompréhension des troupes depuis l'annonce du projet par ce pigiste chimiquement pur. Quand je vous dis les corps en interne à la police, c'est quand même quelque chose. La création d'un directeur de la police nationale dans chaque département appelé à coiffer l'ensemble des services sans distinction quand les limiers de la PJ, spécialistes des affaires complexes, ne rendaient jusque-là compte qu'à l'autorité judiciaire et à leur direction centrale. Dans la nouvelle organisation prévue pour entrer en vigueur dès 2023, il rejoindrait les enquêteurs de la sécurité publique, compétents pour des infractions de moindre envergure, en perdant au passage, selon eux, indépendance, efficacité et technicité au profit d'un traitement de la délinquance du quotidien. Fait inédit dans les annales, une association nationale de la police judiciaire a été créée mi-août pour porter publiquement des critiques contre le projet jugé mortifère, qu'ont également dénoncé la Conférence nationale des procureurs de la République, l'association machin, donc ça on a lu la tribune dans Le Monde. Il s'attaque également à une réforme qui sacrifiera une filière d'excellence et conduira à privilégier l'arrestation du petit trafiquant, vite remplacé contre le démantèlement des réseaux. Interviewé mercredi matin sur France Inter, François Molins, procureur général près la Cour de cassation, donc lui c'est le procureur, le patron des procs, a expliqué pour sa part un certain nombre de dangers d'un projet qui risquait de détruire quelque chose qui fonctionne. Face à ce front commun, M. Vaux n'avait d'autre choix que celui d'agir. D'abord en dressant un constat qui révèle en creux les points noirs d'une filière de l'investigation en pleine crise. Taux d'élucidation en berne, déficit d'encadrement des services de sécurité publique et traitement des infractions économiques et financières, pas totalement satisfaisant sur fond de profondes mutations de la criminalité. Ouais. Donc le DGPN qui dit bon, déjà la PJ, c'est pas parfait. Commencez par faire un constat ensemble, chers collègues, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ensuite, en proposant une stratégie, renforcement de nos capacités de la prise de plainte, meilleure coordination sur l'ensemble des services, encadrement et pilotage unique de l'action. Une grande direction nationale de la police judiciaire viendrait chapeauter l'ensemble, soutenue par une doctrine en cours d'élaboration et la garantie que l'autorité judiciaire seule continuerait à conduire l'action des enquêteurs. Les termes du courrier n'ont toutefois pas suffi à apaiser la NPJ. Objectant une réforme mal comprise, juge l'association des policiers, ce courrier n'offre pourtant aucune clarification satisfaisante sur l'avenir de la police judiciaire. Il évoque une mission de sauvetage de la sécurité publique dans le cadre d'un projet non abouti, ne garantissant aucune sanctuarisation de la PJ. Ok. Cette annonce est plutôt positive, avec une partie de levée de doutes sur certains points, et un directeur général qui s'adresse enfin à tous les agents et pas seulement au grand chef, estime en revanche Yann Bastière, responsable de l'investigation du syndicat SGP Police FO. Reste de sérieuses interrogations sur le maillage territorial de nos services, le contenu de cette fameuse doctrine, les organigrammes. Les grands chefs en auront peut-être la primeur. Jeudi 1er septembre, Frédéric Vaux devrait recevoir les directeurs zonaux de la PJ avant leur rendez-vous dans la foulée avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bon. Ok. Donc là, effectivement, le DGPN a envoyé un courrier à la fin du mois d'août à tous les officiers pour leur dire tranquille, vous inquiétez pas, on va garantir et tout, mais ça reste trop flou aux yeux de l'Association nationale de la police judiciaire qui dit ouais, vite fait votre truc quand même. Hein. Vite fait, c'est pas assez précis, le maillage territorial, la fameuse doctrine dont vous nous parlez, les organigrammes, qui est responsable de quoi, sous l'autorité de qui, etc. On n'est pas rassuré, on a besoin de garanties, c'est normal. On continue avec réforme de la police judiciaire. Gérald Darmanin se dit prêt à évoquer des amendements au projet en cours. Donc c'est la fameuse réunion dont on parlait à la fin de l'article précédent. Putain, c'est vachement bien fait cette revue de presse. Qui a eu lieu, et du coup le journal Le Monde, toujours Antoine Albertini qui en parle. Donc c'est Antoine Albertini en fait qui a suivi toute cette réforme, c'est cool ça. Faudrait l'inviter. Gérald Darmanin se dit prêt à évoquer des amendements au projet en cours. Au cours d'une réunion avec les directeurs de la PJ, jeudi, le ministre de l'Intérieur a déclaré être à l'écoute des inquiétudes des enquêteurs. On était il y a un mois, hein, c'était le 3 septembre. La réunion organisée suffira-t-elle à calmer la colère des fonctionnaires de la PJ ? Si peu d'éléments ont filtré de la teneur des débats que ce qui se sont déroulés à huis clos. L'Association nationale de la police judiciaire, créée il y a 3 semaines pour porter la parole des policiers inquiets sur la réforme en cours, une première dans l'institution, se félicite dans un communiqué que Le Monde a consulté de la qualité d'écoute du ministre. Rapporté par les participants à la rencontre. Un nouveau rendez-vous est programmé dans un mois pour étudier les propositions qui seront faites par les directeurs qui devront veiller à maintenir la police judiciaire dans ses missions historiques, précise le communiqué. Ok. La NPJ dit toutefois rester mobilisée, vigilante et conserver la volonté de voir sanctuariser la police centrale, la direction centrale de la police judiciaire et ses services territoriaux. La réorganisation en cours, qui devrait entrer en vigueur en 2023, prévoit la création d'une filière d'investigation unifiée, placée dans chaque département sous l'autorité d'un responsable de l'ensemble des services de police. Les enquêteurs de la PJ se trouveraient alors fusionnés avec ceux des unités dépendantes de la police publique, chargées du traitement de la délinquance de masse du quotidien. Ils redoutent de perdre leur autonomie dans l'opération et de se voir confier des missions sans rapport avec leur degré de technicité. Ok. La qualité d'écoute de Darmanin. Je sais pas, t'étais à la réunion, toi ? Magic HP, t'en as pensé quoi de la réunion où t'étais ? Le projet suscite depuis plusieurs mois l'inquiétude et la mobilisation des services concernés. À tel point que le 30 août, le directeur général de la police nationale, lui-même figure de la PJ, a adressé au service un courrier précisant les intentions. Bon, ça, on vient de lire l'article. Ok. La réforme de la police nationale aura bien lieu en 2023. Monsieur Darmanin a indiqué lors de son entretien avec les directeurs qu'il avait entendu les craintes des enquêteurs de ne plus pouvoir exercer leur mission de police judiciaire et a assuré que cette réforme ne se ferait pas contre la volonté des agents, assure encore la NPJ, qui ne se dit pas opposée à une réforme de la filière de l'investigation, mais estime que la solution proposée actuellement, à savoir la suppression de la DCPJ et la dilution de ses effectifs au sein de la sécurité publique, ne résoudra en rien les problèmes rencontrés. Monsieur Darmanin devrait se rendre auprès d'un service de PJ dans le courant de la semaine prochaine pour échanger avec les équipes de terrain et a demandé aux responsables de la PJ, avant une nouvelle rencontre prévue dans un mois, de réfléchir à des propositions d'amendement. Son entourage souligne toutefois que la réforme de la police nationale aura bien lieu en 2023. Ok. L'article date de quand ? Ça date d'il y a un mois. C'est un article qui date d'il y a un mois. Ça date d'il y a un mois. Bon, entre-temps, il s'est encore passé plein de trucs. Mais je crois qu'on commence un peu à comprendre le fond, la forme et la diagonale de ce projet de réforme. C'est quoi les derniers articles ? Il y a 15 jours, il y a 20 jours. La réforme de la police judiciaire tourne à la guerre de communication. Partisans et opposants du plan de réorganisation de la police s'affrontent à coups de communiqués et de publications sur les réseaux sociaux. Non, parce que jusque-là, moi, c'est des articles que j'avais pas lus. Hein. Je suis comme vous. Hein. Moi, j'ai un peu découvert le problème de la PJ depuis qu'il y a eu le limogeage du patron de la PJ de Marseille. Avant, j'avais vu passer des articles, mais c'est vrai que j'avais pas prêté plus attention à ça que ça, quoi. Comment est-ce qu'on passe d'un service, d'un projet de réorganisation interne à la police à une situation où toute la gauche est rend debout derrière la police, soutient la police contre le projet de réforme de Darmanin ? Bah, c'est la guerre de communication. Une quarantaine de gilets pare-balles posés sur le lino de la direction zonale de la police judiciaire à Bordeaux, leur dossard barré d'un band adhésif noir en signe de deuil. Mardi 13 septembre, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, aurait pu rêver meilleur accueil, lui qui venait expliquer le sens de la réforme engagée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les gilets ont été promptement retirés sur ordre de la hiérarchie. Trop tard, l'image circulait déjà sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé à Marseille, où les gilets n'ont pas été retirés, et du coup Dominique Vaux, il a viré le directeur. Ça chauffe, hein. Depuis des mois, les enquêteurs de la police judiciaire redoutent de disparaître dans ce vaste plan de réorganisation. Leur crainte, bon, ça on a déjà lu. Longue lettre. Démantèlement de la PJ. Service d'investigation. Non, ça on a déjà lu en fait. On ne fait pas de com, mais de la pédagogie, assure une source au ministère de l'Intérieur. Certes, mais une pédagogie fort appuyée. Vendredi 9 septembre, Ange Mancini, ancien patron du RAID et figure de l'institution, était invité à dire tout le bien qu'il pensait de la réforme dans une vidéo tournée aux côtés de la porte-parole de la police, Sonia Fibleuil. Il n'est pas question de la faire disparaître, mais au contraire de lui donner une inspiration depuis la base jusqu'au sommet, déclare à propos de la PJ l'ancien grand flic, aujourd'hui âgé de 78 ans, devenu préfet avant de passer dans le privé. Mardi, l'association des hauts fonctionnaires de la police judiciaire s'est elle aussi réveillée dans un communiqué. Cette réforme doit pouvoir aboutir à un véritable enrichissement de la filière investigation en général et des services de police judiciaire en particulier. Savoureux, le texte rédigé dès dimanche évoque des conclusions adoptées après la tenue de la réunion plénière du 12 septembre, soit le lendemain. La communication institutionnelle s'appuie sur des hauts fonctionnaires retraités depuis plusieurs années pour contrer les inquiétudes unanimes des policiers et magistrats en service actif. C'est tout simplement ubuesque, apprécie Yann Bozin, président de la NPJ. La bataille risque désormais de se dérouler sur un terrain beaucoup plus politique. Mardi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a validé la création d'une commission d'information sur les... dont la co-rapporteur devrait être Marie Guévenoux et Hugo Bernalicis, député du Nord, et monsieur Sécurité de la France Insoumise. Au programme, des auditions des responsables de la police, des chercheurs, d'historiens, des magistrats ou des syndicats. Avec l'idée, précise monsieur Bernalicis, qu'une bonne partie de ces auditions soit publique et filmée pour rendre visible ce qui touche à cette réforme. Les conclusions de la mission devraient être connues avant la fin de l'année, alors que l'entrée en vigueur de la réforme est encore officiellement au moins prévue pour le 1er janvier 2023. Une précipitation, espérait la NPJ dans un communiqué mardi, qui porte en elle les germes de l'échec inévitable de cette réforme. Donc il y a une commission d'enquête qui a été déclenchée à l'Assemblée nationale. Donc les députés se sont saisis de tout ce bordel et ils ont créé une commission d'enquête. Je vous rappelle qu'une commission d'enquête, c'est... je vous parlais dans la vidéo que j'ai faite sur les QAG de la mission de contrôle de l'action du gouvernement par les députés. Les députés contrôlent l'action du gouvernement, par exemple, via des commissions d'enquête. Donc c'est une enquête parlementaire où les députés, sous la direction de Hugo Bernalicis et Marie Guévenoux, vont mener des auditions pour essayer de tirer au clair les enjeux de cette réforme et faire des préconisations. Donc il y aura des auditions de Gérald Darmanin, il y aura des auditions du DGPN, il y aura des auditions de la police judiciaire, il y aura des auditions des syndicats, des magistrats, des journalistes, des historiens, etc. etc., etc. Donc c'est cool. C'est cool que les parlementaires se soient saisis de ce truc. On verra où ça va. Toujours est-il qu'ils continuent à discuter. Le ministère semble prêt à des amendements à sa réforme. Non, mais ça avance. Si tout ça est filmé, ça va être chouette à suivre. Bah, c'est souvent filmé, les auditions. Regardez, je vais vous montrer. Les auditions en commission à l'Assemblée nationale, c'est très souvent filmé. Hein. Regarde, tu vas sur le portail vidéo. Hop. Donc ça, c'est le PLF, on s'en branle. Commission. Hop. Commission des lois. Hop. Et là, tu as le travail en commission des lois. Aucune vidéo pour cette sélection. Et eh ben alors, afficher les commissions législatures précédentes. Ouais, on va faire ça. Bah alors, qu'est-ce qui m'emmerde ? Je peux pas cliquer sur la page 2. Le portail vidéo de l'Assemblée nationale, toujours au rendez-vous. La page 3 non plus. Énorme. Énorme. Non, ça c'est une discussion sur un projet de loi. Je sais pas, j'essaie de vous trouver une commission d'enquête, mais là j'en ai pas. Bah, affaire Benalla par exemple, c'est ça? Arella a été limogé pour quelle raison? Arella, c'est le directeur de la PJ de Marseille, enfin l'ancien directeur de la PJ de Marseille. Il a été limogé parce qu'il n'a pas réussi à tenir ses troupes. Qui ont protesté contre le directeur général de la police nationale lors de son arrivée à la PJ de Marseille. Ce qui est triste, c'est que quand on n'est pas d'accord ou qu'on exprime une critique ou un désaccord, on est vite viré ou mis de côté dans la police alors que certaines critiques sont constructives. Je sais pas, je travaille pas dans la police, mais c'est possible, hein, c'est possible. C'est vraiment un motif de renvoi, ça? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est le principe de la hiérarchie, vous savez. Un directeur qui ne tient pas son service, il est viré, hein. C'est pareil dans l'armée. Un sergent dont l'unité fout le bordel, etc., bah ça dégage, hein. Il y a un certain devoir de réserve dans la police, ceux qui s'y engagent savent à quoi s'en tenir, bien sûr. Il n'est pas viré, mais muté. Oui. Ce qui, dans le jargon, veut dire, oui, placardisé, quoi. La police n'est pas soumise au droit de réserve. Devoir de réserve. Si, 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 si. Bah, rappelez-vous, Castaner, il a été viré aussi du ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez pourquoi ? Pareil. Parce qu'il n'a pas réussi à tenir ses troupes, qui faisaient des manifs sauvages. Les policiers faisaient des manifs sauvages. Sur les clés d'étranglement, exactement. Ok, bon, écoutez, moi je commence à y voir un peu plus clair sur le projet de réforme. Pourquoi, comment ? Les craintes et les critiques contre ce projet de réforme de la part de la police judiciaire et de leur soutien. Les discussions en cours et le calendrier, donc commission d'enquête parlementaire, entrée en vigueur prévue en 2023, mais ça se trouve ça va être un peu ralenti. Donc on suivra ça. Et maintenant on va parler de la réquisition des grévistes. Je dis ça avec une voix. Eh, on va parler de la réquisition des grévistes. Ouais. Non, c'est le deuxième sujet d'actualité sur lequel je vous propose qu'on essaye de se remettre un petit peu tous au niveau, parce que moi, je suis comme vous, je suis un peu largué. J'ai quelques connaissances en droit et tout, mais ça m'intéresse de savoir que cette histoire de réquisition de grévistes, dépôt de carburant, quelles sont les mesures d'entrée en vigueur, de commande, machin. C'est quoi une réquisition, tout ça, tout ça. Ça m'intéresse comment on fait pour réquisitionner des grévistes dans le privé, ouais. Des policiers en manif qui vont réquisitionner les grévistes. Oh, c'est pas la PJ, hein. Youpi, la réquisition. C'est quoi un gréviste ? Ah ouais, on en est là. Bon, ok, on reprendra à la base. Il y a un petit risque de guerre dans le chat. Bien sûr que non, pourquoi ? Évidemment non. Les forces de police, la police judiciaire de la modération est parfaitement bien organisée, sous la responsabilité d'un directeur départemental, régional et national. C'est quoi cette histoire de police réformée ? Ah non, tu regarderas le stream là, ça fait quoi ? Ça fait 1h48 qu'on en parle. On change de sujet là. Tu regarderas le replay. Sur YouTube, sur Jean Massier Replay sur YouTube. Soutien aux familles des raffineries. Je vais faire une petite pause. Je vais me rechercher un café. Un café, de l'eau, il m'en reste presque plus. Et ensuite, on parle de réquisition. Donc, je vous laisse. Je vais vous laisser avec une page de pub des années 90. Comme la dernière fois. Je sais que ça vous avait plu.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ?
Eh bien... C'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût. Et en plus, elle se revisse. Ce qu'il demandait.
L'essentiel est dans l'actel.
Que la fête commence ! Bah non, doucement ! Avec Champomy, il y a toujours une fête à célébrer. Champomy, pour les fêtes qui pétillent.
Le chocolat au lait de poulain est deux fois plus crémeux. Le chocolat au lait de poulain est deux fois plus crémeux. Donc, deux fois plus tendre. Donc, deux fois plus tendre. Et deux fois plus onctueux. Et deux fois plus onctueux. Oh, pardon. Poulain crémeux et plutôt deux fois qu'une. Poulain crémeux et plutôt deux fois qu'une.
Ah, je vous préviens, il y a des nouveaux sirops qui s'appellent Sironimo. Alors ça va chauffer. 1, 2, 3, 4.
Everybody's got to live together. All the people got to understand.
Sironimo, ça prend combien de l'eau?
Oh, hey, une cascade.
Well, Sironimo, Sironimo, Sironimo.
Bon, on dirait du sirop.
Mais c'est du sirop.
Sironimo, c'est rigolo.
Et toi, tu sais comment le font le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème?
Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes aux culottes courtes.
On va voir les vaches?
C'est moi, Maître Sega. Et ce petit excité, c'est Sonic. Lui, si tu le cherches, tu vas le trouver. En achetant la Mega Drive de Sega, tu peux aussi avoir le jeu Sonic. Mega Drive plus Sonic, Sega, c'est plus fort que toi.
Mais les mini-doux, à quoi jouez-vous?
Je suis nouveau.
Ça, c'est la douceur mini-doux. Mais cette fraîcheur, je ne la connais pas. Ça sent bon les îles.
Je suis fraîcheur des îles. Fraîcheur des îles. C'est
mini-dou,
mini-dou. Toujours
plus frais, plus moelleux sur vous. Mini-dou, les petits génies du tout. De l'air, la vie.
Ah, c'est trop.
Un tropico, coco?
Tropico, coco.
C'est tropico, coco.
Oh là là, quelle journée. Dehors, l'angoisse. Changement de décor. À toi, ma cuisine mobile pas. Cuisine mobile pas, je suis si bien.
Huit minéraux, sept vitamines. La banane, la nature lui a tout donné.
Red Air.
New York.
Twix.
Tokyo. London.
My tailor is Twix.
Partout dans le monde, Red Air, The Twix,
Berlin, Madrid,
c'est pareil, seul le nom change, maintenant Red Air, c'est Twix.
T'es pas bien?
Respire.
Je sens rien.
Eh oui, ça sent rien, y'a qu'ici qui peut sentir ça.
Et c'est pour ça que tu nous as amenés ici.
Bien sûr, ton cœur de lion en bas, il est malheureux. Il est comme toi, il respire pas. Ton camembert ici, il sent le camembert. Une petite brise et hop, il parfume la montagne, tout l'espace. Il se venge.
Et donc, hein? Attends,
Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert.
On a vu un téton. Non, tu déconnes. Oh merde. Oh merde. Non, c'est bon, tout va bien. Attends. C'était pour Mobile Pas? Sega, Sonic. Tropico ? Mais non, il n'y a rien. Il y a air. Il n'y a pas de nichon. Vous racontez n'importe quoi.
Il y a toujours une fête à...
Attends. Je regarde. Tout se passe bien. Cyronimo. Oh, les souvenirs. Kiri. On va voir les vaches. Sonic. Là, il y a la maman sur la plage, elle est en maillot de bain. Non mais c'est bon, il y a R. La meuf dans la savane avec le lion. Tropico. Ça va. On n'a rien vu. Ah, l'autre, ah oui, non. Est-ce qu'on voit ses tétons? Mais non, on voit pas ses tétons, qu'est-ce que vous racontez? Mobile pas dans sa cuisine. Mais ah, oh là là, si vous êtes prude. On voit rien. Mais non, mais pas du tout. Drôle de pub pour une cuisine. Ah ouais, ça les publicitaires. Hein. Toujours faire appel au cul. Remonte pour voir. Par contre, tu vas te prendre un bon DMCA sur la pub pour le sirop. Ah, ça c'est possible. Ça c'est possible. J'ai pas vu. Bah, vous irez voir. Du coup, réquisition de grévistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hier, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, la France a entendu la première ministre Elisabeth Borne annoncer aux députés que le gouvernement était en train de prendre les décrets en vue de réquisitionner les grévistes des dépôts de carburant et des raffineries. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors attends, on va essayer de trouver un article. Tac. Réquisition de grévistes. Mais ils sont à chier les articles. Borne réquisition de grévistes. Merci Red One qui offre un sub, merci beaucoup. Red May One, pardon. Non, bah, je trouve pas d'article spécifiquement sur Borne qui annonce ça hier, il y a directement des articles d'explication. Alors, on va lire, on va sur viepublic.fr. Viepublic.fr, c'est un site de la... documentation française ou du ministère de la communication, je sais jamais, et c'est un truc qui est plutôt pratique en fait, qui répond à plein de questions sur le fonctionnement des pouvoirs publics et tout. Vous avez des stats, vous avez des infos, pose des questions d'actu et tout, c'est assez bien fait comme site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Droit de grève, la réquisition des salariés grévistes est-elle possible ? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Je croyais qu'elle avait menacé de le faire si Total ne trouve pas de solution. C'est ce que j'avais compris aussi, mais en gros, le gouvernement met sa menace à exécution et menace de réquisitionner si un accord n'est pas trouvé. Dans un contexte de mouvements sociaux se déroulant sur différents dépôts de carburant en France, le gouvernement a annoncé le 12 octobre 2022, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, la réquisition de certains personnels grévistes. Mais sous quelles conditions l'État peut-il réquisitionner des salariés d'une entreprise privée ? Réponse avec vie-public.fr. La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Comment définit-on le droit de grève ? Dans quelles conditions une grève peut-elle avoir lieu ? Quelles en sont les conséquences pour l'emploi des grévistes ? Et quelles en sont les limites ? La réponse avec la fiche vie publique qui vient d'être mise à jour. Comment définit-on le droit de grève ? En France, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. Il fait partie des droits et devoirs accordés dès 46 et repris par la Constitution de la 5e. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois et qui le réglementent. L'arrêt du 2 février 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Pour être valable, une grève doit réunir les conditions suivantes. Un arrêt total du travail, un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes. L'appel d'un syndicat à faire grève n'est pas nécessaire. Ils peuvent le décider sans syndicat. Voilà. Et des revendications professionnelles portant sur le salaire, les conditions de travail, la défense des droits. Dans quelles conditions une grève peut-elle avoir lieu ? Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, sans préavis ni avertissement ou tentative de conciliation avec l'employeur. A l'inverse, dans le secteur public, une grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis de 5 jours, pendant lequel les représentants syndicaux et l'administration employeur sont tenus de négocier. Dans les deux cas, les revendications portées par les grévistes doivent être clairement communiquées à l'employeur dès le départ. La grève peut être de courte durée, une heure par exemple, ou bien s'étendre sur plusieurs jours, voire semaines. Elle peut aussi être répétée. Néanmoins, les grévistes ont pour obligation de respecter le travail des non-grévistes. S'ils empêchent ceux qui le souhaitent de travailler, ils s'exposent à une sanction. Évidemment, c'est toujours le problème des piquets de grève. On n'a pas résolu le problème et de toute façon, il n'est pas résoluble. Ça fait partie des mouvements de grève. Certaines formes de grève sont interdites dans la fonction publique. La grève tournante, qui correspond à la cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs et catégories professionnelles d'une même administration. La grève politique, non justifiée par des revendications professionnelles. Et la grève sur le tas, avec occupation et blocage des locaux de travail. Ça, c'est que dans la fonction publique. C'est chelou, une loi pour que uniquement les employés de Total peuvent faire grève. Hein ? De quoi tu parles ? Merci Joe. Quelles sont les conséquences d'une grève sur l'emploi des grévistes ? La grève suspend le contrat de travail des grévistes, mais ne le rompt pas. Le Code du travail, dans sa version de 2002, toujours en vigueur, précise que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Cependant, le gréviste perd une partie de son salaire proportionnelle à la durée de l'arrêt du travail. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire l'objet d'une discrimination pour avoir fait grève. Il peut néanmoins être sanctionné, voire perdre son emploi s'il a commis des actes illégaux, comme l'usage de la violence à l'encontre du personnel de la direction de l'entreprise. Donc, un salarié ne peut pas être licencié parce qu'il a fait grève. C'est interdit. En revanche, si pendant le mouvement de grève, il a détruit du matériel ou violenté des gens, etc., là, ça peut être une faute lourde et il peut faire l'objet de sanctions, voire d'un licenciement pour faute. Perte de salaire, quel pourcentage ? La perte du salaire est proportionnelle à la durée de l'arrêt du travail. Donc si tu as fait grève pendant une journée, tu perds un jour de salaire ce mois-ci. Une heure de grève, tu perds une heure. Évidemment, alors je vais revenir dessus, dans le cadre des négociations entre les employeurs et les salariés grévistes, il peut y avoir dans la négo le paiement des jours de grève. Ça arrive, pas toujours, mais ça arrive. Dans la négociation, un accord est trouvé et l'accord prévoit, le patron dit « Ok, je paye les jours de grève et vous reprenez le travail ». Et les grévistes, ils font « Ok, faire, ça nous va, let's go ». Ça arrive même régulièrement. Ça arrive régulièrement, ça dépend des mouvements de grève, ça dépend des entreprises, mais ça peut arriver. Un salarié gréviste ne peut pas être renvoyé parce que c'est interdit. Bonne nouvelle, je suis sûr que ça n'arrive jamais. Ah si, ça arrive malheureusement, si, bien sûr. Bien sûr, il y a des salariés qui font l'objet de mesures de rétorsion parce qu'ils ont été grévistes. Les profs qui font grève le jeudi, mardi, parce qu'ils font le lundi ou vendredi, ils se font sucrer le week-end avec. Hein ? Non ? Non, pas du tout. Quelles sont les limites du droit de grève ? Certains agents publics n'ont pas le droit de grève en raison de l'obligation de maintenir un service minimum. Les professions concernées sont les militaires, les policiers, gendarmes et compagnies républicaines de sécurité, les magistrats, les surveillants pénitentiaires, les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur chargés du bon fonctionnement des appareils informatiques, de surveillance et de conservation des données. Voilà. Il me semble que si. Quoi ? Si quoi ? De quoi ? Si tu fais vendredi et lundi, tu perds 4/30. Ah d'accord, je savais pas. Ah, pour les profs qui du coup font... D'accord. D'accord, le week-end est décompté comme jour grévé. D'accord, ok. Ah, je savais pas. Dans l'éducation nationale, du coup. Ok, je savais pas. D'accord, oui, parce qu'en fait, ils sont payés au forfait, moi. Donc, d'accord, ok, j'ai l'idée. D'accord. Et c'est pas que dans l'éducation nationale. Comptez le week-end, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les enseignants, enfin, un certain nombre de fonctionnaires ont des statuts qui prévoient que leur temps de travail n'est pas délimité sur des jours ouvrés du lundi au vendredi, mais ils sont payés sur 30 jours, qui comprennent les week-ends. Enfin, tout ça fait partie de leur statut et leur négociation de salaire qui vont avec. C'est compté en 30e, ouais. Ouais, c'est ça, payé sur 30 jours, c'est le mode de fonctionnement du truc. D'autres professions bénéficient d'un droit de grève limité à cause de leur organisation particulière, comme les contrôleurs aériens, les employés de l'audiovisuel public, des transports, du secteur nucléaire ou encore du personnel hospitalier. Le pouvoir exécutif peut également décider de limiter le droit de grève au nom de l'article 1111-2 du Code de la Défense, lequel autorise la mobilisation générale de toute ou partie de la population en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population. Typiquement, c'est la mobilisation telle que celle qui a été décidée par Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mobilisation générale pour aller défendre le territoire, machin. Là, effectivement, droit de grève n'est pas autorisé. Le gouvernement peut aussi demander au préfet concerné de requérir toute personne nécessaire sur un territoire délimité en utilisant l'article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est tout ? Ben c'est pas ouf. On n'en apprend pas beaucoup plus, mais bon, au moins ça nous a remis un peu les trucs sur le droit de grève. D'accord, très bien. Comment le gouvernement peut-il ordonner la réquisition des grévistes sans porter atteinte au droit de grève ? C'est un article de jurisconsulte.net, un cabinet d'avocats. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui font des articles d'explication du droit. On va voir s'il n'est pas trop long. Non, ça va, il n'est pas trop long. On va faire du droit, les enfants. Vous êtes prêts ? Article d'analyse. Il y avait une suite à la page précédente. Ah bon ? Bah non. Non, il te renvoie vers une autre page sur le service minimum dans les transports qui a été écrite en 2019. Non, il n'y a rien de spécifique sur la réquisition. Ça, c'est le truc qu'on a lu. Qu'est-ce que le droit de grève ? Non. Ils ont juste mis à jour la fiche sur le droit de grève avec ça. De ce que je comprends. Si les policiers, militaires, magistrats, surveillants, pénitentiaires peuvent faire grève, ces dernières années, on a eu des grèves de policiers ou de magistrats, par exemple. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas le droit de faire grève formellement, mais ils peuvent trouver quand même des techniques pour faire des quasi-grèves. Donc la grève du zèle, par exemple, ce que faisaient les magistrats. La grève du zèle, c'est je continue à faire mon travail, mais je ne fais pas plus que les horaires qui sont prévus. En fait, je fais le service minimum. Et en général, notamment dans la justice, ça suffit à désorganiser le service suffisamment pour que ça force les négociations. C'est un peu le quiet quitting version fonction publique, ouais, c'est un peu l'idée. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Le fameux minimum syndical. Ouais, tu fais le minimum, et surtout tu deviens ultra procédurier. Tu fais aucun effort, quoi. Tu dis, ah bah non, moi si j'ai pas de saisie automatique, bah non, j'ai pas le droit, donc je le fais pas. Voilà. Et la police n'a pas fait grève, ils ont manifesté, effectivement, on fait référence à la police judiciaire actuellement, on fait référence aux policiers qui faisaient des manifs sauvages où ils jetaient leurs menottes par terre, c'était des manifs, mais c'était pas techniquement des droits, c'était pas techniquement de la grève, ils ont pas cessé le travail. Le zèle, c'est l'inverse, c'est faire consciencieusement son travail. Oui, justement. La grève du zèle, ça veut dire arrêter de faire du zèle, arrêter d'être consciencieux dans son travail. tu traînes des jambes, quoi. Tu traînes la patte. Tu fais des longues pauses café. Tu mets du temps à faire ton travail. De toute façon, rien ne requiert que tu fasses ton travail vite. Donc, tu le fais lentement. Tu fais attendre les gens. C'est ça, la grève du zèle. T'arrêtes de faire du zèle. Voilà. C'est pas travailler normalement, ça ? Bah non. C'est demander tous les petits détails et relire 45 fois les trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Tu deviens relou. Tu dis, attends, je vais relire le document pour la quatrième fois. Il n'y a pas écrit que je dois être rapide dans mon travail, donc je vais le relire. Voilà, tu cesses de faire du zèle. Genre, tu fais du streaming plus long. Ah, moi, je pourrais faire la grève du zèle. Hein. Je pourrais faire des streams. Je rentre en négociation avec mon employeur. Mon employeur, c'est les abonnés. Du coup, je rentre en négociation avec vous. Donc, je fais la grève du zèle. Donc, je fais des streams. Voilà. Ou... J'en fais pas beaucoup plus que ça, quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui m'oblige à lire des articles. Il n'y a rien qui m'oblige à vous faire comprendre la politique. Voilà, moi, on peut discuter. Voilà. Je peux faire des pauses, aller prendre des cafés. Discuter avec vous sans y mettre du mien, quoi. Voilà, ça va, vous ? Passez un bon... Ouais, il vous plaît, ce stream ? Super. Voilà. C'est sympa, vous passez un bon moment ? Ouais. Et donc, c'est fou ce qui se passe dans l'actu. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça fait réfléchir. Hein. Merci pour vos subs. Bonjour à tous. Bienvenue les nouveaux. Merci H. Cézanne pour ton prime. On vit vraiment dans une saucisse. Hein. Ouais, ouais. Petite pause. La grève de l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la grève de l'enthousiasme. C'est un streamer qui te donne envie. Je viens d'arriver. Bah bien, je suis en grève. Je suis en grève du zèle. Je suis en train de montrer aux gens du chat ce que c'est que la grève du zèle. Voilà. J'arrête d'en faire des caisses. Je fais mes heures. Quelles sont tes revendications ? Que tu t'abonnes. Moi, je veux une augmentation du salaire. Je veux une augmentation du salaire. Donc, faut que les gens s'abonnent. Sinon, je reprends pas le travail. Merci, Sans Légy, pour ton resub. On te soutient dans ton mouvement, Jean. C'est inadmissible ce qu'il t'arrive. Au bout de combien d'abonnements tu reprends le zèle ? Au bout de 5 abonnements. Au bout de 5 nouveaux abonnements. Parce que là, je vois que vous êtes en train de vous resub. Merci hein, pour vos resub au demeurant, mais ça ne satisfait pas les revendications des camarades et des collègues. Merci True Broken Gears pour ce pas en avant dans la négociation. Merci Mary Pond pour ton prime. Merci Gaël pour ton prime. On approche petit à petit d'un retour vers le travail, vers le zèle. Merci Adro Live, merci pour les 5 subs offerts au chat, c'est la reprise du zèle, ouais.
Je suis à l'aise financièrement, je ne plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci à tous pour vos subs, merci pour les subs offerts, incroyable, quel engouement, quelle volonté de la part du patronat de reprendre le travail. Vous avez vu, hein, quand on fait pression, le patronat il finit par craquer. Ah bah voilà, hein. Ah bah ouais camarade. Fin de la grève, bonjour à tous, ça fait super plaisir. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements, merci pour vos subs et vos subs. Merci Xela, merci Raglik, merci Optimus56, merci Frimir, merci Tirel Cor, merci Erwanir, merci Ror, merci à tous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous retrouver, dis donc, c'est incroyable. Dis donc, il se passe plein de trucs dans l'actualité en ce moment, dis donc. Il faudrait qu'on lise des articles pour essayer de comprendre tout ça. Oh là là. Ah bah ça fait plaisir. On était à deux doigts de la réquisition. C'est vrai ça. Ça c'est du zèle bien zélé. Sur France Info, il y a un article sur l'annonce de la grève de Borne. D'accord, ok. D'ailleurs, je serai sur France Info ce soir à la télé à 22h30 pour débriefer le passage de Emmanuel Macron sur le plateau de l'émission de France 2. Voilà. Donc ce soir, allumez la télé. Désolé de vous demander ça, mais il va falloir allumer la télé ou regarder sur Internet. Du coup, on en était où ? Comment le gouvernement peut-il, machin truc, le droit de grève, la réquisition, tout ça ? Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un mouvement de grève dans les services publics en utilisant le droit à la réquisition des civils prévu dans le cadre de l'Organisation Générale de la Défense. En effet, l'article L2215-4 au quatrième alinéa du Code général des collectivités territoriales dispose qu'en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service. C'est ça le droit à la réquisition. Hop. Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un mouvement de grève dans les services publics en utilisant le droit de réquisition des civils. Mais ça, on l'a déjà lu, merci. En effet, d'accord, donc ça c'est déjà lu, le refus d'obéir à un ordre de réquisition constitue une infraction pénale. Dans quelles circonstances et sous quelle forme le préfet peut-il réquisitionner ? Ça veut dire quoi réquisitionner un service ? Ça veut dire obliger les gens à travailler sous peine d'être poursuivis pour infraction pénale. C'est ça une réquisition. Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un mouvement de grève. Cette possibilité a été prorogée au-delà du temps de guerre, sans limitation de durée, par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, par l'article 2 de la loi de 1950 et par l'article 45 de l'ordonnance de 1959. La réquisition doit être motivée par le fait que la grève risque de porter atteinte grave, soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population. Excusez-moi, j'ai un appel.
Oui, allô ?
Bonjour. D'après vous, c'était pourquoi ? Le CPF, non. Et oui, c'était France Info. Bravo, bravo à celles et à ceux qui l'ont trouvé. C'était France Info. Comme je serai sur le plateau de France Info ce soir pour débriefer et analyser l'intervention d'Emmanuel Macron, Ils m'appellent pour me demander comment est-ce que je veux être présenté à l'antenne. Et c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de. Qu'est-ce qu'on met sur. En gros, c'est qu'est-ce qu'on écrit sur le bandeau. Non, ta gueule. Qu'est-ce qu'on écrit sur le bandeau en bas de l'image. Et donc voilà. Donc je lui ai dit en vrai, je m'en fous. Je me formalise pas. Streamer, ça parle que aux gens qui savent ce que ça veut dire. Et les téléspectateurs, ils savent pas. Donc c'est pas la peine d'écrire streamer. Vous pouvez mettre vidéaste, vulgarisateur, youtubeur, influenceur. Enfin, en gros. Je lui ai dit, en vrai, je me formalise pas. Je sais que c'est galère. Donc, il m'a dit, ouais, on mettra un truc comme vidéaste, analyse vidéaste politique sur Internet. Je lui ai dit, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, pas la peine de se formaliser, on s'en branle. Vidéaste en temps réel, joueur en temps réel. C'est à quelle heure sur France Info? À 22h30. Analyste, vulgarisateur politique. Ouais. Hugo Décrypte du pauvre. Ouais, c'est ça. Version cheap d'Hugo Décrypte. Hugo des cheap. Bref, Osef, ce sera pour ce soir. Alors, dans quelles circonstances et sous quelle forme le préfet peut-il réquisitionner? La réquisition doit être motivée par le fait que la grève risque de porter atteinte grave soit à la continuité des services publics, soit à la satisfaction des besoins de la population. Voir en ce sens l'arrêt du Conseil d'État de 1961, Sieur Isnardon, recueille le bon, page 150. Ça, c'est un arrêt du Conseil d'État qui précise. Considérant que si les grèves déclenchées par le personnel de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille à partir du 15 juillet 1956 se sont manifestées par des interruptions de services d'une durée variable sur différentes lignes du réseau, il ne ressort pas des pièces du dossier que les perturbations qui en ont résulté sur ce trafic aient eu pour effet de porter soit à la continuité du service des transports, soit à la satisfaction des besoins de la population, une atteinte suffisamment grave pour justifier légalement la réquisition du personnel des régies. Et que dès lors, ça c'est un autre appel mais je répondrai plus tard, et que dès lors, le sieur Isnardon est fondé à soutenir que le gouvernement n'a pas pu légalement prendre, dans le cadre des pouvoirs qui lui tenaient titre machin en 38 et la disposition machin, permettant la réquisition de l'ensemble des personnels dont il s'agit. Donc là, le Conseil d'État a rendu un arrêt disant que la grève dans les transports en commun de Marseille ne portait pas suffisamment atteinte à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins de la population pour justifier une réquisition. Voilà. On parle de service public, là, pas de société privée. Oui, mais justement, on va y venir, mais c'est dans le cadre de porter atteinte soit à la continuité des services publics, soit à la satisfaction des besoins de la population. On va voir si le fait que les gens ne puissent pas faire le plein à la pompe est une atteinte suffisamment grave à la satisfaction des besoins de la population pour justifier la réquisition des dépôts pétroliers. On verra. Quelles sont les limites du pouvoir de réquisition du préfet ? Non, attends, excuse-moi. On avait ça avant. La réquisition des personnels grévistes ne peut être décidée que par décret en Conseil des ministres ou par arrêté du représentant de l'État dans le département, le préfet. Voir l'article machin du Code des collectivités territoriales qui dispose qu'en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou pour quelques-unes, ou pour une seule, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien, et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin et que les conditions de son maintien soient assurées. Le préfet, c'est le chef de la police. Au niveau départemental, oui. Pour faire simple. Le préfet, c'est le représentant de l'État dans le département et c'est la personne qui est chargée de veiller à l'ordre public. Et l'ordre public, c'est défini juridiquement assez précisément comme l'ordre, la salubrité, la tranquillité, la sécurité publique, etc. Donc le préfet peut, par un arrêté motivé, réquisitionner des personnels grévistes dès lors qu'il y a une atteinte grave et que ses propres pouvoirs à lui ne lui permettent plus de maintenir ça. Quelles sont les limites de ce pouvoir de réquisition? Cependant, le préfet ne peut prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées au nécessaire aux nécessités de l'ordre public. Ainsi, un arrêté préfectoral prescrivant une mesure générale de réquisition conduisant à instaurer un service complet ou non, et non un service minimum, est entaché d'une illégalité manifeste, portant une atteinte grave au droit de grève. Ah, d'accord, ok, c'est intéressant. D'accord. Le préfet peut réquisitionner, mais il ne peut pas réquisitionner tous les salariés pour qu'ils reprennent le travail intégral. Non, il est obligé de proportionner ça à l'atteinte à la salubrité, à l'ordre public, et donc uniquement service minimum. D'accord. Au bout d'un moment, on ne force pas une personne à faire une activité qu'il a décidé d'arrêter. Ah bah si. Bah si. Enfin, là, je parle pas même pas forcément du droit de grève, mais c'est le principe de pouvoir de police et de justice. Donc, service minimum seulement. J'en étais où ? Il y a eu un arrêt du Conseil d'État en 2003 qui dit que si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article du Code général des collectivités territoriales, s'il peut légalement requérir les agents de grève d'un établissement de santé dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Préfet ayant entendu en l'espèce requérir l'ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d'une activité complète du service dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève, en prescrivant une telle mesure générale sans envisager de redéploiement d'activité vers d'autres établissements de santé ou le refonctionnement réduit du service et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a pris une décision entachée d'une inégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Donc là voilà, il y a eu en 2003... Le préfet a été sanctionné par le Conseil d'État puisqu'il a décidé de réquisitionner l'ensemble des sages-femmes d'un service pour qu'elles reprennent le travail tout ensemble. Et le Conseil d'État a dit « Bah oui, mais le préfet, il a fait ça sans chercher à vérifier s'il était possible de satisfaire les obligations de santé publique autrement que par la réquisition de l'ensemble des sages-femmes ou avec un service dégradé, minimum, un redéploiement des autres services, etc. Donc c'est illégal. » Ok, d'accord. Je comprends l'idée. Le préfet ne peut prendre que des mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. Hop. Les circonstances que la décision de requérir des agents en grève porte sur une période écoulée à la date à laquelle le juge statue ne rend pas sans objet la demande tendant à la suspension, dès lors que celle-ci est présentée sur le fondement de l'article 1 de justice administrative, le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale. Ok. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de machin... Non mais ça, je viens de le lire. Mais putain, mais c'est vachement mal écrit votre billet, les gars, là. Putain, ça c'est vraiment les juristes, hein. Ils en font des caisses, ils copient-collent le même sujet, le même paragraphe dans le paragraphe suivant, ça m'énerve. Bon, remarque, je faisais ça dans mes copies moi aussi. Hein. En prescrivant une telle mesure générale sans envisager le redéploiement, mais je viens de le lire, ça. Nikoumouk. Non mais c'est méga mal écrit votre truc. La réquisition ne doit pas avoir pour effet d'instaurer un service normal, mais seulement un service minimum. Tribunal administratif de Melun, l'ordonnance des référés liberté en 2010, Confédération générale du travail, Confédération générale des syndicats et autres. Donc là, pareil, c'est le tribunal administratif de Melun qui a été saisi par la CGT, visiblement. Considérant que le droit de grève présente un caractère d'une liberté fondamentale, que si le préfet peut légalement requérir les personnels en grève d'une entreprise pétrolière dans le but d'assurer l'approvisionnement en carburant des véhicules de service d'urgence et de secours du département ainsi que prévenir les troubles à l'ordre public, la sécurité publique que générait une pénurie prolongée, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. Considérant qu'en réquisitionnant la quasi-totalité du personnel de la raffinerie Total de Grand Puy, en vue non seulement d'alimenter en carburant les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises départements de poursuivre leur activité. Et alors, au surplus que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que les stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence... Santé publique. Considérant qu'il existe de tout ce qui précède que l'arrêté litige a porté atteinte grave au manifestement illégal au droit de grève et son exécution, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que les préfets puissent, le cas échéant, décider que si le prolonge le fait, faire l'usage des pouvoirs qu'il tient de l'article machin dans une pérennement énoncée. Alors attends, ça c'est un arrêt important pour ce qui nous concerne. Donc, en 2010, la dernière fois qu'il y a eu une réquisition des personnels des raffineries, le préfet a décidé de requérir l'ensemble des salariés de la raffinerie pour servir l'ensemble des clients de la raffinerie, y compris les particuliers. Et là, le tribunal administratif de Melun a rendu une ordonnance en disant le préfet aurait dû limiter la réquisition des employés nécessaires des raffineries pour fournir du carburant uniquement aux véhicules d'urgence, véhicules prioritaires. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, à jurisprudence constante depuis 2010, Elisabeth Borne ne pourrait pas réquisitionner les raffineries pour qu'elle donne du carburant à tout le monde. Elle serait limitée à seulement fournir du carburant aux véhicules nécessaires au maintien de l'ordre public, donc les ambulances, les pompiers, la police, etc., etc. Ok, d'accord. Il peut réquisitionner que le minimum pour le service public, pompiers, police, service d'urgence. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une réquisition, c'est pour le service minimum uniquement. Ouais, c'est ça. Ça reste une décision de première instance. Tu as raison. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est à l'heure où je vous parle, il y a des conseillers du gouvernement auprès du service du ministère de l'Intérieur et de la Première ministre Elisabeth Borne qui sont en train de s'arracher les cheveux avec des juristes du Conseil d'État pour essayer de voir comment est-ce qu'ils pourraient réquisitionner légalement. Donc là, ils sont en train de lire des articles, ils sont en train de lire des jurisprudences et tout en se disant « Attends, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il faut qu'on puisse réquisitionner si on veut le faire vraiment. Il faut pas qu'on tombe. » Donc là, ils sont en train d'écrire des notes à Elisabeth Borne en lui disant « Attention, madame la Première ministre, on a vérifié. En l'état actuel des choses, la loi ne nous autorise pas à réquisitionner toutes les raffineries du pays pour servir du carburant à tout le monde. Si on veut rester dans les clous de la loi, selon la jurisprudence, machin, il va falloir qu'on réserve ça d'abord aux véhicules d'urgence et tout. » En sachant que chaque préfet doit rédiger cet arrêté. Non, ça peut être un arrêté, ça peut être un décret en Conseil des ministres. T'inquiète. Est-ce qu'ils peuvent changer la loi en urgence ? Bah non, elle sera frappée d'inconstitutionnalité. Parce que le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. On arrive globalement aux mêmes personnes requises que pendant la pandémie. Non, pas du tout. Non, là on parle des raffineries. Ok, donc ça c'est important comme jurisprudence, mais effectivement vous avez raison, c'est le TA de Melun. Je sais pas s'il y a eu je sais pas si l'État a fait appel et s'est retrouvé en cour administrative d'appel. S'ils vont trop loin, quel est le recours pour les grévistes? Bah voilà, la justice, le tribunal peut faire condamner l'État. Que risque un salarié qui refuse de se soumettre à la réquisition? Le refus de se soumettre à un ordre de réquisition constitue un délit, puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. C'est la loi du 11 juillet 1938, relative à l'Organisation Générale de la Nation pour le temps de guerre. Sachant que vous aurez compris tout à l'heure que les dispositions de cette loi ont été étendues au temps de paix. Ok. Vous pouvez contacter Maître André Icard. Vous avez son téléphone qui est là, métro ligne 7, plaque bleue. Donc ça, c'est le métro de couleur bleue. Villejuif ou Aragon, en plus, c'est pas vrai. Métro ligne 7, c'est la plaque verte. On s'en branle, hein. Ou rose, je sais plus. Rose, non, c'est rose. Donc Maître André Icard, là, son téléphone est en train de sonner. Il y a la CGT Total Raffinerie qui est en train de l'appeler en disant « Maître, est-ce que vous pouvez préparer, s'il vous plaît, une saisine du référé Liberté du tribunal administratif en référé liberté pour dire what the fuck. Merci Momozo. Ok, d'accord. On continue. Réquisition gréviste. Qu'est-ce qu'on a comme info là-dessus ? La Croix. Mais je suis pas abonné à La Croix, du coup je vais pas pouvoir lire l'article, c'est ça ? Ah si, c'est bon. Oui, c'est bon. La Croix. Grève dans les raffineries. Qu'est-ce que la réquisition des salariés ? Face à la reconduite de la grève dans les raffineries françaises, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mardi 11 octobre sur la chaîne Twitch de Jean Massier la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe Esso ExxonMobil. Une disposition qui permet d'assurer un service minimum sous certaines conditions. La Première ministre a appelé la réquisition du personnel pour le déblocage des dépôts de carburant, machin... Condition de la grève. La réquisition permet de mobiliser les employés malgré un mouvement de grève sous certaines conditions. La réquisition des salariés grévistes est encadrée soit par le code de défense, soit par les situations rares comme en contexte de guerre, soit par le code général des collectivités territoriales. C'est ce deuxième texte qui pourrait permettre au préfet, dans le contexte actuel, de faire travailler une partie des salariés grévistes via un arrêté préfectoral pour assurer un service minimum d'approvisionnement et de carburant, comme l'a très bien expliqué le streamer Jean Massier sur sa chaîne. Le texte précise en effet qu'en cas d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité, à la sécurité publique, le préfet peut réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien. Il n'est toutefois pas possible de réquisitionner la totalité des salariés grévistes pour un retour au fonctionnement normal des raffineries, prévient maître Éric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail. Le droit de grève étant encadré par la Constitution, les syndicats peuvent en effet saisir le juge des référés du tribunal administratif pour vérifier la validité d'un tel arrêté. T'inquiète pas qu'ils vont le faire. Si le juge estime que l'arrêté du préfet n'est pas imposé par l'urgence et proportionné au service aux nécessités de l'ordre public, la décision constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit de grève. Un tel précédent avait eu lieu en 2010 lors des blocages des raffineries de carburant dans le contexte de la grève contre la réforme des retraites. Le tribunal administratif de Melun, dont nous venons de lire l'arrêt, avait estimé qu'en réquisitionnant la quasi-totalité du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits, en vue non seulement d'alimenter en carburant les véhicules prioritaires, mais également de fournir des produits pétroliers de toute nature à l'ensemble des clients de la raffinerie, et non d'assurer le service minimum, le préfet avait porté atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. La situation actuelle s'avère toutefois différente. Les raffineries ne sont pas bloquées intégralement et l'approvisionnement en carburant continue malgré une réduction drastique de la cadence. Les préfets ne peuvent pas exiger des salariés grévistes d'aller travailler au-delà du service minimum, assure maître Éric Rocheblave. L'annonce du gouvernement relève donc davantage sur lui de la communication que d'une réelle menace. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'en fait, les raffineries ne sont pas toutes bloquées et il y a quand même du carburant qui est distribué, mais pas beaucoup. Et en fait, le juge administratif pourrait très bien estimer que le préfet n'a pas le droit de réquisitionner la raffinerie. Il aurait dû prioritairement réserver l'alimentation en carburant pour les véhicules prioritaires. Ouais. Question bête, mais c'est quoi les revendications des grévistes chez les raffineries ? Les salaires. Les revendications sur les salaires. Ok. Non, je réfléchis, mais du coup, ouais, peut-être que le gouvernement, avant de réquisitionner, il aurait intérêt à prioriser la distribution de carburant pour les véhicules prioritaires. Et si ça ne suffit toujours pas à assurer l'ordre public, là, il pourrait réquisitionner. Comme ça, il pourrait aller devant. Si le juge entend le gouvernement pourra dire au juge, bah, regardez, on a essayé de prioriser sur les véhicules prioritaires et ça n'a pas suffi. On est donc obligé de réquisitionner pour un service minimum, etc. C'est le cas déjà normalement. Ouais, dans certains départements, ouais. Ouais. Il faudra le faire en deux étapes. Ouais, mais l'étape 1 est déjà en cours dans certains départements. Peut-être que ça ne suffit pas. Je sais pas si ça suffit ou pas. Là, pour le coup, je suis pas dans les petits papiers du gouvernement. Là, pour le coup, on a des remontées d'informations via le ministère de l'Intérieur avec les préfectures qui disent « c'est la merde, il n'y a plus d'essence dans les ambulances, on ne peut plus aller chercher les blessés et les malades, il n'y a plus d'essence pour les pompiers, on ne peut plus lutter contre le feu, il n'y a plus d'essence dans les voitures de policiers, on ne peut plus faire nos missions de maintien de l'ordre. Là, on a un problème grave de sécurité, de salubrité, de santé publique. » On peut imaginer un arrêté disant que le blocage partiel des raffineries trouble l'ordre public en mettant le peuple à bout et que de trop nombreuses personnes ne peuvent plus travailler. Ça, non. Pas à ce niveau-là. Il y a 3 mois de stock stratégique qui se débrouille avec ça. Mais c'est pas le problème. En fait, c'est pas le problème, c'est pas une question de stock. C'est qu'en fait, il y a du carburant. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Il y a du carburant, tout va bien. Il y a du carburant, sauf que le carburant, il est stocké dans des dépôts de pétrole, là où les camions vont faire le plein, pour ensuite l'amener jusqu'aux stations-service. Le problème, c'est que c'est les personnels de ces stations de pétrole et des raffineries qui mettent le pétrole dans ces stations. Une partie de ces personnels sont en grève. C'est un problème de distribution, c'est pas un problème d'approvisionnement. Donc, il y a un stock stratégique, mais le problème, c'est que le stock stratégique, là, il est stocké, on peut pas y approcher, on peut pas le toucher. Ou pas assez. Pompiers, gendarmes et SAMU utilisent leur carte Total Énergie et du coup, ils ne peuvent plus faire de plein. Ouais. Quelles sont leurs revendications? Augmentation des salaires. En même temps, ne pas aller bosser, ça démolit l'économie, pas l'ordre public. Alors, ceci étant, attention, il peut y arriver un point où l'atteinte à l'économie peut porter atteinte à l'ordre public. Si on arrive à une déstructuration de l'économie à tel point que les gens n'ont plus à bouffer, ne peuvent plus, enfin, il n'y a plus de chauffage, plus d'électricité, là, on a un problème de sécurité. D'ordre public, au sens premier de la notion d'ordre public. On n'en est pas là, hein, mais ça, voilà, ça peut arriver. La possibilité d'importer du carburant d'autres pays ne permet pas de justifier que l'on n'a pas besoin de réquisitionner les employés des raffineries. Ça ne change rien. Je te le redis, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement en carburant. On peut importer du carburant de l'autre bout du monde si on veut, ça ne change rien. Le problème, ce n'est pas l'approvisionnement, le problème, c'est la distribution. Donc il y a des bateaux, des tankers qui viennent dans les ports décharger du carburant, dans des raffineries. Les raffineries raffinent ce pétrole et l'envoient dans des dépôts de carburant. Et c'est au niveau de ces dépôts de carburant qu'il y a des personnels grévistes. Donc nous n'avons pas de problème d'approvisionnement. C'est bon, il y a du pétrole. Est-ce que Total peut dire non et tous les virer ? Total n'a pas le droit, non, c'est interdit de licencier un salarié parce qu'il a fait grève. C'est une atteinte au droit de grève. Il y a du pétrole, mais pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. Il y a du pétrole qui est dans les... Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un dépôt de carburant. Voilà, vous voyez ça, hein ? Ce genre de truc-là. Ça, c'est un dépôt de carburant. Enfin, ce sont des dépôts, c'est-à-dire c'est des grosses citernes dans lesquelles on fout plein de trucs, notamment du carburant. Et c'est dans ce dépôt de carburant, le pétrole arrive dans ce dépôt de carburant via les raffineries qui ont raffiné le pétrole, et les camions, citernes, viennent prendre le pétrole dans ce dépôt pour ensuite l'amener à votre station service. Voilà. Donc on a des gros réservoirs avec plein de pétrole dedans, tout va bien, il y a du pétrole, il n'y a pas de problème. Les agriculteurs qui n'ont plus de GNR peuvent-ils devenir un problème ? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas pour faire la hiérarchie des problématiques, mais quand t'as plus de pétrole, t'as un problème de sécurité parce que tu peux plus assurer les services publics élémentaires de maintien de la sécurité sanitaire, les ambulances, les pompiers pour éteindre les feux, la police, etc., l'armée, machin. Et puis ensuite, tu as des problèmes effectivement d'approvisionnement pour les gens qui peuvent plus se chauffer au fioul, qui peuvent plus se déplacer, qui peuvent plus travailler. Voilà. Quoique passé un certain stade, la capacité de stockage sera maximale, ce qui affectera la quantité de pétrole à raffiner et à gérer en sortie de tanker. Oui, bien sûr. Il faut donc attendre qu'il y ait des problèmes de sécurité pour réquisitionner tout le monde. Oui, c'est exactement le principe de la loi sur la réquisition. La réquisition n'est possible que si elle permet, via un service minimum, d'assurer la sécurité, l'ordre public, notamment la sécurité. Après, dans l'absolu, on pourrait aussi imaginer que l'État fasse pression sur Total plutôt que sur les grévistes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Le service public principaux ne peuvent pas se servir directement au dépôt. Bah, ça résout pas le problème. Les dépôts, ils sont vachement loin de... Ah, tu vois, les camions de... Enfin, les ambulances de Strasbourg peuvent pas rouler jusqu'au Havre pour aller faire le plein. Il y a besoin de distribuer le pétrole, c'est pas... La grève peut être reconduite jusqu'à quand ? Ah bah, y a pas de limite, hein. Donc c'est de l'esbrouf quand la droite réclame la réquisition pour les travailleurs. Je sais pas si c'est de l'esbrouf, ça peut être un argument politique. Mais clairement, l'État, effectivement, d'après la juridiction administrative, c'est pas légal. Quel recours à l'État contre Total ? C'est bien joli de faire pression, mais avec quoi ? Je sais pas, c'est une bonne question. Il me semble que la CFDT a négocié une prime de 3 500 € et une augmentation de 6,5%. Est-ce que c'est exact ? Je sais pas. C'est possible, je sais pas. Mais s'il savait avant ou pas qu'Elisabeth Borne fasse sa déclaration ? Oui, je pense. Est-ce que l'État peut utiliser les ressources de l'armée pour faire le boulot ? Je suis même pas sûr. Je sais pas. Je sais pas si l'armée a la logistique suffisante pour acheminer du pétrole dans toutes les stations-service de France. Vraiment pas sûr. Hein. Et puis il faut que l'armée ait assez de gens avec des bonnes compétences. Ouais, c'est oui, c'est pas. Enfin, je ne suis pas travailleur de Total ni d'Exxon. Je suppose que c'est pas en claquant des doigts qu'on fait fonctionner une raffinerie ou un dépôt de carburant. Ça demande quand même un peu de savoir-faire. Je suis pas sûr que si tu envoies un militaire de la logistique dans un dépôt, il va savoir ouvrir le robinet. Je dis ça, je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est possible, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Je pense que c'est un peu technique quand même. C'est un peu comme si t'avais des grèves des médecins, des sages-femmes et que t'envoyais l'armée. Je suis pas sûr que les militaires ils savent faire des accouchements. Hein. Beaucoup de respect pour les militaires, hein. Ils savent faire beaucoup de choses, mais l'accouchement, chef, je fais comment ? La dame elle écarte les jambes. Quelle est la procédure, chef ? On attaque, on se replie. Prise d'information. Non, mais tu vois. Bon. Il faut une habilitation spécifique pour la livraison de carburant. Oui, non, faut être habilité. Puis même, faut savoir faire, quoi. Je veux dire, c'est technique, quoi. C'est technique. n'y a pas que des soldats dans les militaires. Non, mais c'est vrai, oui, je sais, il y a des services de la logistique dans l'armée, il y a des gens qui savent gérer le carburant, c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu sais gérer le carburant pour l'acheminer dans des chars d'assaut, dans des frégates, etc., que tu sais distribuer le carburant sur toute une partie du territoire. Enfin, c'est... Il y a des régiments spéciaux pour gérer l'essence. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a du savoir-faire et des militaires qui savent faire que l'armée est en mesure d'assurer à elle seule un service dans tous les dépôts de carburant du pays, avec Total, avec... non, je suis pas sûr. Problème de logistique, même s'ils savent faire. Ouais. Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Je pense pas. Je sais pas. On va regarder, tiens, d'ailleurs. Logistique militaire. Oula. Oula, il y a une page Wikipédia entière sur la logistique militaire. Oh putain. On est sur les différents métiers de l'armée. Côté logistique, combattant du transport routier, chef de groupe de soutien pétrolier, chef de groupe d'approvisionneur, mécanicien, groupe maintenance... Donc, soutien pétrolier. 1400 euros net par mois. Comment devenir chef de groupe de soutien pétrolier? Non, mais ça, c'est sur les emplois. Moi, je veux les effectifs. Armée, effectif, soutien pétrolier. Soutien aux forces armées. Ils ont des camions citernes, mais bon, avec ça, tu vas pas aller très loin. Hein. Tu vas... les enjeux de la restructuration du service des essences. Comment assurer le soutien pétrolier et l'expertise technique au profit des armées et des services publics dans un contexte de fortes contraintes sur les effectifs? Oula, c'est un livre ou c'est un article de la revue Défense Nationale de Jean-Luc Volpi sur les enjeux de la restructuration des services des essences de l'armée. Oula, ça m'a l'air précis. Oula, ça m'a l'air précis. Le service des essences de l'armée à l'aube de la loi de programmation militaire. Intéressant. Vous savez que moi, ce genre d'article, je suis capable de les lire tout seul dans mon lit le soir pour m'endormir. Hein, par pure curiosité. Tiens, c'est vrai ça. Comment est-ce qu'on restructure le service de l'essence des armées? Il parle de 1394 militaires, d'accord. C'est juste mon article de chevet en fait. Donc voilà, donc du coup, réquisition en cours des travailleurs dans certaines usines, enfin dans certaines, pardon, raffineries. Je ne sais pas quel est le décret de réquisition qui a été pris. Est-ce qu'on peut le consulter, tiens, d'ailleurs, décret réquisition. Merci, Schlackmuche. Légie France, non. Non. Tiens, on a un article de Public Sénat. Pénurie de carburant. Le gouvernement annonce une réquisition des salariés, un mécanisme rare et contesté. Hop. Le gouvernement a annoncé mardi la réquisition d'une partie du personnel pour le déblocage Macquin. Malgré un accord salarial conclu lundi sur une revalorisation des salaires, les syndicats majoritaires au sein des deux raffineries françaises du groupe, CGT et Force Ouvrière, ont reconduit le mouvement de grève lancé le 21 septembre. Ce ne sont pas des accords à minima. Les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. En parallèle, les négociations sur les salaires doivent s'ouvrir chez Total Energy, où trois raffineries et un dépôt de carburant sont également bloqués par le même mouvement de grève. Le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit, a lancé Elisabeth Borne avant d'avertir, à défaut, le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. Un tiers des stations-service du pays est désormais affecté par des pénuries de carburant. Le gouvernement a indiqué ce week-end avoir fait débloquer une partie des stocks stratégiques, mais l'opposition de droite continue de réclamer des mesures supplémentaires. Sur le plateau du grand jury RTL Le Figaro LCI, Bruno Bretaillot, le chef de file des sénateurs LR, avait demandé des réquisitions pour libérer les forces de production de nos raffineries. Lorsqu'il y a obstruction, je cite, « il y a des principes de droit que la force publique peut parfaitement faire respecter. Le gouvernement est en train de se défausser », avait déploré le Vendéen. L'exécutif n'a plus eu recours aux réquisitions des salariés depuis 2010, un dispositif encadré par la loi et dont les syndicats ont souvent dénoncé l'incompatibilité avec le droit de grève. Le gouvernement peut décider d'une réquisition nationale par voie de décret pris en Conseil des ministres ou au niveau local en passant par le préfet, qui est le représentant de l'autorité de l'État à l'échelle du département ou de la région. La réquisition préfectorale est presque exclusivement privilégiée parce que la procédure est moins lourde, donc plus rapide et plus efficace. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit souvent de faire face au blocage d'un ou de quelques sites stratégiques, l'échelon local s'avère plus pertinent, révèle le constitutionnaliste Benjamin Morel auprès de Public Sénat. Oui, effectivement, je comprends les deux arguments. Pour le coup, je suis soldat de ravitaillement carburant dans l'armée suisse et on a déjà fait des exercices dans ces sensés. On ne fait pas tourner les pompes à raffinerie ou des dépôts, mais on faisait tout l'acheminement. Notre gros avantage, c'est qu'on tournait 24/7 pour faire des acheminements. Ok, d'accord, je ne savais pas. T'es soldat de ravitaillement carburant dans l'armée suisse. Ok, intéressant. Donc en Suisse, l'armée peut prendre en main le ravitaillement. Mais vous ne pouvez pas faire tourner la raffinerie ou le dépôt de carburant. Ok, intéressant. Merci pour le témoignage en tout cas, c'est cool. Effectivement, les exemples de réquisition nationale sont plutôt rares. L'un d'eux, surtout, a laissé quelques traces. En juin 59, un décret publié au Journal officiel prévoit la réquisition des personnels de la SNCF pour la journée du 16, après un appel à la grève des organisations syndicales. Mais il ne sera pas appliqué, l'ordre de grève ayant été suspendu par la reprise des négociations. En 62, ce sont des conducteurs de métro qui sont réquisitionnés face à un débrayage à la RATP. Le tournant intervient pendant la grève des houillères de mars-avril 63. Les mineurs qui réclament, vous savez, la houille, c'est le nom qu'on donne au charbon qui est extrait de la terre. Donc la grève des houillères de mars-avril 63, les mineurs qui réclament un rattrapage salarial font l'objet d'une réquisition dont le décret signé par Charles de Gaulle depuis Colombey les deux églises soulève un véritable tollé chez les syndicats. En Lorraine, terre gaulienne par excellence, la réquisition n'est pas suivie. Les grèves de 63 sont importantes dans l'histoire de la Ve République. Charles de Gaulle chute de plus de 10 points dans les enquêtes d'opinion, ce qui marque en quelque sorte la fin de son état de grâce. Le président laisse à son Premier ministre Georges Pompidou le soin de résoudre la crise. Cet épisode accentue la dissociation des rôles entre chef de l'État et chef du gouvernement, qui en laissant une forme de traumatisme chez les exécutifs suivants, rappelle Benjamin Moral. Tiens, c'est intéressant ça. L'importance de la grève de 63 et de la réquisition qui n'est même pas suivie. Même De Gaulle a perdu son autorité sur ce coup-là. Quand je vous dis que c'est important, que c'est dangereux la réquisition et que ça peut faire mal à un gouvernement en termes d'opinion publique, même le grand De Gaulle a perdu 10 points dans les sondages. Chaud. La réquisition préfectorale, on l'a compris, est beaucoup moins risquée sur un plan politique. C'est le mécanisme qu'a choisi d'activer Elisabeth Borne ce mardi. Il s'exerce dans le cadre de l'article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales dont Jean Massier a donné lecture sur sa chaîne Twitch. En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs ou pour une seule, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin et que les conditions de son maintien soient assurées. Merci Kaseiskou, merci. Les personnes réquisitionnées, grévistes ou non, qui ne se plieraient pas à cette obligation, ont encore 6 mois d'approvisionnement et 10 000 euros d'amende. Elles doivent en revanche être rétribuées pour les tâches qui leur seront demandées. Ah bah oui, on va pas bosser gratos non plus. Non, les personnes réquisitionnées sont payées. La motivation de cette réquisition est un point essentiel. D'autant plus que dans le cas d'Esso, ExxonMobil et de Total Energy, il s'agit d'entreprises privées qui n'appartiennent pas au service public. Par ailleurs, si l'on peut considérer que l'approvisionnement en pétrole revêt une importance stratégique de premier plan, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, le maintien d'une activité économique n'est pas nécessairement corrélé à la préservation de la tranquillité de la sécurité publique. Total Energy n'est pas un service public. Mais sans carburant, vous ne pouvez plus faire rouler les ambulances, les pompiers et les bus. Suivant cette logique, la perquisition permet de rétablir la continuité du service public. Non, la réquisition, pas la perquisition. Heureusement que je suis là pour corriger Benjamin Morel, le pauvre. En octobre 2010, la grogne contre la réforme des retraites lancée par Nicolas Sarkozy s'accompagne du blocage de 12 raffineries. Le gouvernement passe par les arrêtés préfectoraux pour relancer 3 sites, dont celui de Grangeville dans les Yvelines. Saisi par les grévistes, qui invoquent une atteinte au droit de grève, le tribunal administratif de Versailles, puis le Conseil d'État, refusons tour à tour de suspendre la réquisition. Dans leur décision, les sages du Palais Royal, autrement appelés les conseillers d'État, le Conseil d'État siège au Palais Royal à Paris, reconnaissent la réalité des risques pesant sur le maintien de l'ordre public, évoquent le risque de paralysie aérienne de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus largement une menace pour le ravitaillement des véhicules des services publics et des services de première nécessité en Île-de-France. En revanche, à la même période, le tribunal administratif de Melun ordonne la suspension de la réquisition de la raffinerie de Grand-Puits en Seine-et-Marne, comme l'a très bien dit Jean Massier sur son stream. Dans ce cas, la justice a reconnu une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, notamment du fait que la réquisition de la quasi-totalité du service du personnel de la raffinerie. Dans la foulée, un nouvel arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne cantonne la réquisition salariale au personnel strictement nécessaire. La réquisition est en effet considérée comme un service minimal. Elle ne peut pas être un retour à la normale. La mise en place d'un service minimum est elle-même une manière de ménager les services publics ou est-elle... Attends. La mise en place du service minimum est-elle une manière de ménager les services publics ou une façon de casser la grève qui ne dit pas son nom ? Sans doute l'un et l'autre, observe toutefois Benjamin Morel, qui a bien raison. En novembre 2011, donc on a une jurisprudence des deux côtés. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Pas tout à fait. De ce que je comprends, la réquisition n'a pas été suspendue dans la raffinerie de Granville, de Grangeville, pardon, Gargenville, parce que visiblement l'arrêté du préfet se bornait à seulement le personnel nécessaire, donc service minimum. Alors que comme on l'a vu à Melun, la raffinerie de Grand-Puits, là le préfet il avait fait ça à la schlag, il avait pris un décret, il avait dit tous les salariés vous reprenez le boulot. Et là le Conseil d'État avait dit non, le tribunal administratif pardon avait dit tatatatatata. Comme on dit en droit, non, t'as pas le droit de réquisitionner tous les salariés pour un retour à la normale. Tu dois assurer un service minimum en ne réquisitionnant que les salariés nécessaires. Ce qui a donc été fait dans un deuxième arrêté préfectoral. Il y a trop de nuances dans cet article, ça force à réfléchir. Je n'aime pas ça. Va sur Twitter si tu veux. T'auras des opinions prêtes à retweeter. T'inquiète. En novembre 2011, l'Organisation internationale du travail, l'une des agences des Nations Unies, adresse ses remontrances à la France, considérant que le gouvernement s'est livré à une interprétation abusive des textes de loi pour procéder aux réquisitions. Ni la distribution de pétrole pour le fonctionnement du transport aérien, ni le transport en lui-même ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. En outre, les considérations économiques ne devraient pas être invoquées pour justifier les restrictions au droit de grève, lit-on dans le 362e rapport du Comité de la liberté syndicale. D'accord, donc l'OIT a rendu un rapport en disant « Écoutez, vous êtes gentil, mais la paralysie de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est pas un enjeu de sécurité nationale en fait. Au pire, il y a des gens qui peuvent pas aller en vacances. Au pire, il y a des gens qui peuvent pas revenir de vacances. Mais ça, c'est pas un enjeu de sécurité. C'est un désagrément, certes, mais c'est pas une mise en danger de la sécurité. » Ça, c'est ce qu'a dit le rapport de l'OIT. Cependant, en cas de paralysie d'un service non essentiel au sens strict du terme dans le secteur de très haute importance dans le pays, comme peut-être le transport de passagers ou de marchandises par exemple, l'imposition d'un service minimum peut se justifier, concède l'OIT, qui appelait alors le gouvernement à ne plus procéder unilatéralement et à décider des réquisitions en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. Oui, je ne suis pas sûr que consulter avec la CGT pour savoir comment est-ce qu'il faut réquisitionner, whatever. Une recommandation à l'épreuve, semblait-il, de la méthode d'écoute et de concertation vantée par la Première ministre dans la déclaration de politique générale. Oui. Très bon article. De Public Sénat, de Romain David. Dans quelle mesure l'État peut ignorer l'OIT ? Non mais l'OIT, il rend des rapports, hein. c'est pas une juridiction, il fait des préconisations, il rend des rapports. Donc il tape sur les doigts, mais... Donc intéressant tout ça. Drôlement intéressant. Est-ce que le personnel réquisitionné est-il toujours considéré comme gréviste ? Compte-t-il dans les effectifs grévistes ? Ça change rien en fait, que tu sois gréviste ou non gréviste. De toute façon, quand t'es réquisitionné, t'es payé. Donc, whatever. Le préfet ordonne la réquisition de tous les salariés nécessaires au service. Donc, ceux qui veulent continuer à faire grève qui ne sont pas nécessaires au service peuvent rester en grève. Donc, je pense que le happiness manager de la raffinerie, c'est pas très grave s'il ne reprend pas le boulot, quoi. c'est pas essentiel. Est-ce qu'ils sont mieux payés comme s'ils bossaient un dimanche ? Non, je crois pas. Non, je sais pas. Je viens d'arriver, il y a zéro moyen de refuser une réquisition. Bah, tu es en cours 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende. Les salariés seront tristes. J'ai envie de te dire, ils sont déjà réquisitionnés. Il va être encadré, le droit de grève, maintenant pour restreindre le pouvoir des grèves. Il est déjà encadré. Il est déjà encadré. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis. Hein. Tu peux démissionner du coup. Ah, tu peux très bien démissionner, oui. Comment est-ce qu'on contacte les salariés grévistes réquisitionnés ? Écoute, je sais pas, j'ai pas leur numéro de téléphone en ce qui me concerne. Je sais pas. Ça a 2-3 conséquences, la démission. Oui. Tu peux pas démissionner sans préavis. Normalement. Mais tu peux abandonner ton poste. Mais bon, t'auras pas de chômage, t'auras pas de... bon, puis t'auras plus de salaire, quoi. Puis t'auras plus de travail, quoi. Qui choisit qui est réquisitionné ? Le préfet. Du coup, s'il y a réquisition, on interdit aux usagers non essentiels de prendre de l'essence parce que sinon, ça rend difficile de savoir la limite entre réquisition légale et illégale. Bah, c'est un peu la question. De ce que j'ai compris pour l'instant, la seule fois qu'un tribunal administratif a jugé illégal un arrêté de réquisition, c'était parce que le préfet avait pas fait dans le détail et qu'il avait réquisitionné l'ensemble des salariés de la raffinerie. En disant, en gros, reprise du trafic normal. Et ce que lui a répondu le juge administratif, c'est non, tu n'as pas le droit de réquisitionner pour un retour du service normal, tu n'as le droit de réquisitionner que pour le retour d'un service minimum, permettant d'assurer la sécurité. Mais je suis d'accord avec toi, je sais pas à quel niveau se trouve le point de détail. Quoi. Je suppose que c'est difficile de savoir, encore une fois j'y connais rien, attention, hein, mais si les camions vont au dépôt de carburant, faire le plein de carburant pour aller les mettre dans les stations totales du département, c'est difficile de dire non, mais ce carburant il est que pour les ambulances, etc. Ou alors il faut que le préfet maintienne la priorisation des véhicules d'urgence prioritaires. Et si tu prends un arrêt de travail pour raison médicale, À ce moment-là, c'est pas une grève, c'est un arrêt de travail. Est-ce qu'on prend plus cher à éviter la réquisition ou à saboter le matériel de production ? Je pense que tu prends plus cher à saboter le matériel de production. Je suis pas pénaliste, hein, mais foutre le feu à un dépôt de carburant. ce n'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites ça qu'avec la supervision d'un adulte. Vous risqueriez de vous blesser. Finir au pénal pour ne pas bosser, pas très malin. D'un adulte ou d'un préfet. Rapprochez-vous de votre préfet pour lui demander. Excusez-moi. Si je fous le feu au dépôt de carburant, je risque quoi ? Oui, c'est ça. Tu vas te retrouver avec la sous-direction du terrorisme. En plus, la PJ, ils sont en grève en ce moment, donc l'enquête, elle va durer 1000 ans. Ouais. Ah non, la révolution, ça attendra. Hein. Vous savez, on peut pas faire la révolution quand on est en centre pénitentiaire. C'est con. Faut faire une demande sur Chorus Pro. Je viens d'arriver, désolé, c'est possible de faire un résumé sur le début de la grève des raffineurs ? Ah, sur la grève des raffineurs ? Oh, bah en résumé, c'est le bordel. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux plus d'analyses précises de l'actualité. Merci pour ce résumé concis et efficace. Alors je vous en prie. Ça, c'est pour briller dans les dîners en ville. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce soir. Ce soir, je suis sur le plateau de France Info. À la télé pour analyser l'intervention d'Emmanuel Macron sur le plateau de France 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une analyse de genre... que je vous dise, moi, Macron, voilà, hein, c'est... Non, mais on voit bien qu'il essaie, mais bon, ça convainc pas. Hein. Voilà, ce sera mon analyse. Ça, c'est le bordel, hein. Moi, je vois mon beauf. Il a voulu faire plein du camion parce qu'il devait aller bosser. Enfin, il devait passer chercher Ginette, mais enfin, bref. Il a fait la queue pendant 2 heures. Hein. C'est ce que je veux que je vous dise. Blague à part, t'es vraiment invité. Non, blague à part, oui. Oui, blague à part. Blague à part, ce soir, je suis vraiment sur le plateau de France Info pour analyser l'intervention d'Emmanuel Macron dans l'émission de France 2. La nouvelle émission politique de France 2 qui s'appelle Événement. Pas stressé de passer sur France TV ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis beaucoup plus stressé de lancer un stream que de passer à la télé. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que la réquisition a une obligation de résultat ? Est-ce qu'on aura des policiers qui vérifient si les ouvriers travaillent bien et assez vite ? Assurer le service minimum, donc oui, je suppose. Surtout sur France Info qui regarde. Oh non, dis pas ça, France Info, ça cartonne. France Info, ça marche très bien comme chaîne. C'est à quelle heure ? C'est à 22h30. Une bonne chaîne de propagande. France Info ! Faut de la propagande, France Info ! Propagande pour qui ? Pour leur chaîne Twitch, ouais. Sur la radio, non, la télé. Propagande du gouvernement. Ah bon ? Ah d'accord. Merde, je leur dirai. Hein. C'est quoi la télé ? La télé, c'est une technologie du siècle dernier qui permet de diffuser un flux d'images et de sons simultanés dans un écran qu'en général, les gens plaçaient devant la table basse en face du canapé. Il y a peut-être encore ça chez vos parents. Et donc, c'était des flux en direct et en linéaire, comme on disait à l'époque, qui permettaient de regarder des programmes, mais de manière non interactive. Voilà. Ils ont copié ça sur Twitch. Ouais, c'est une version un peu cheapos de Twitch. Il n'y avait pas de clavier plat de souris à l'époque, c'était le bordel. Il y avait des espèces de boîtiers en plastique avec des touches en caoutchouc sur lesquelles il fallait appuyer pour sélectionner les différents canaux sur lesquels on pouvait regarder des programmes. Et puis voilà, non, il y avait plein de programmes différents. Ça existe toujours, hein. Il y a plein de programmes différents. Il y a de l'information, du divertissement, de la culture, du sport, des jeux, voilà. C'est ça l'écran gaming au milieu du salon. Oui, bah du coup, les écrans qui avant servaient à regarder la télévision, aujourd'hui servent surtout à brancher les consoles de jeux, ouais. Mais en fait, l'écran sur lequel vous jouez aux jeux vidéo, en fait, il peut être utilisé pour regarder des programmes de flux sur ce qu'on appelle des chaînes de télévision. Mais ça, vous emmerdez pas, ça sert pas à grand chose. Laissez la PlayStation branchée, la Switch et... Ceux qui copient les ventes de Squeezie sur la F4. Ouais. Le GP Explorer. Et on fait comment pour s'abonner à leur chaîne ? Ah, t'es déjà abonné de base ? Alors, il y en a certaines, il faut payer. T'en penses quoi du GP ? C'était génial. C'était vachement bien. C'était un super programme, très bien fait, très bien amené, très bien animé, très incarné aussi. C'est ça qui est cool avec le GP Explorer. C'est que le GP Explorer, c'est pas juste une course qui a eu lieu un samedi. Le GP Explorer, c'est des semaines et des semaines de vidéos sur YouTube, des différentes équipes, composées de gens qu'on aime bien, qu'on soutient, qu'on apprécie, dont on a vu les entraînements, les doutes, les peurs. Et c'est d'autant plus excitant de voir une bagarre entre deux youtubeurs pour la première place que c'est des youtubeurs que tu connais, que t'apprécies. Et donc moi j'ai trouvé ça trop bien, enfin, vraiment le duel des Piello Villebrequin en Formule 4, je suis désolé mais c'est le meilleur truc que tu peux m'offrir, c'est trop bien. C'est trop cool. Et derrière t'as Domingo, t'as Dejna, t'as que des gens que j'aime bien, que j'apprécie et tout... Xari et tout, enfin, moi je me sens beaucoup plus hypé par un GP Explorer que par un tournoi de Formule 1, parce qu'au demeurant je suis pas la Formule 1. C'est vrai que je comprends que les gens qui apprécient la Formule 1, toute l'année ils suivent les écuries, les pilotes et tout, donc c'est sûr que tu regardes avec beaucoup plus d'excitation une course dont tu connais les enjeux, les tenants, les aboutissants et tout. Ben moi je connais pas grand chose à la Formule 1, par contre la F4 j'y connais pas grand chose non plus, mais je connaissais les youtubeurs dans les bagnoles et voilà. Tu serais chaud pour être dans la seconde édition ? Ouais, en vrai, si c'était les formules E, ce serait mieux, tu vois. Voiture électrique, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est vrai que le sport automobile, c'est pas trop mon truc. L'environnement, quand même, ça me concerne un peu. Enfin, ça me concerne. Oui, si, je décide que ça me concerne. Le sport automobile... Ouais, ou des véhicules hybrides, je sais pas. Enfin bref, tant qu'à faire. S'il y a moyen que ce soit des véhicules électriques, moi je suis chaud. Biocarburant, c'est déjà bien le biocarburant, c'est chouette. Trop puissantes les formules E. Peut-être, non, je sais pas, j'y connais rien, bah, à ce moment-là, faites-nous des formules E bridées, très bien. Formule E qui va jusqu'à 200 km/h, c'est déjà énorme, 200, je dis ça avec simplicité alors que... Je sais pas, moi, bridez-les ou faisant des plus petites. Karting électrique, ouais. J'en sais rien, je sais pas, j'y connais rien, Mais moi, je suis chaud pour découvrir des trucs qui sont un peu plus respectueux de l'environnement, quoi, tant qu'à faire. Il y a le rallye, comment ça s'appelle le truc là où les voitures solaires, où c'est des écoles d'ingénieurs du monde entier qui font des courses en voiture solaire. Moi, je trouve ça marrant, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Trophée Andros, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça vaut ? GP en Méhari. Bah en vrai, char à voile. Non mais en vrai, char à voile. Franchement, une course de char à voile entre youtubeurs, moi je suis grave chaud. Je suis grave chaud. Ce serait trop marrant. Course à pied, bah ça a déjà été fait par Domingo. L'échappée. No joke, la course de char à voile, c'est très stylé. Mais grave! Mais en vrai, grave! Moi, je suis trop chaud. Course de char à voile, franchement, il y a du rythme, ça va vite. Si tu filmes bien le truc, il y a moyen de s'éclater. Hein. Bon, je vais déjà faire du surf. L'année prochaine, ce sera un peu mon GP Explorer à moi. Merci le Damne pour ton Prime. Tu vas faire du surf ou je sais pas, c'est pas encore organisé, il faut qu'on organise ça. On a le temps, ce sera pour l'été prochain. Une course de trottinette. Attends, il paraît que ça existe. Attends, il paraît que ça existe. Attention, c'est très sérieux. Moi, je suis méga chaud. Hein. Final of ESC is underway. And the first turn. Oh, we've got a faller. Wow, what a moment through that first turn it was. Je suis grave chaud. All of a sudden, we've got some separation, but Vernet is the surprise leader.
Vernet routines around the outside, using the boost already. Goes around the outside. He seems like he's got that. Wow, they need to let the tires get warm. Shetty in third. And then we have shoots in fourth. Both
these trop bien.
Racing riders have crashed in the first opening corner.
Incredible. Est-ce qu'ils font des sauts?
The Swiss leads his way and he carves back in to end this first lap. The question is, what are the rest of the pack going to do?
Ça a l'air ultra dur. En vrai, ça a l'air chaud. Donc voilà, ça y est, maintenant que j'ai cliqué là-dessus, je vais avoir des recommandations. Et donc ce qui va se passer, c'est que la nuit prochaine, je vais faire une insomnie et du coup, je vais regarder ça pendant des heures. Let's go, ça c'est mes pérégrinations sur YouTube avec vos conneries. Tu penseras à nous, ouais, bande d'enfoirés. Je trouve nettement que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec un regard critique vis-à-vis de l'écologie par rapport au GP Explorer. Oui, non, mais je vous dis encore une fois, moi le GP Explorer, j'ai beaucoup apprécié le suivre. Et j'en comprends aussi la limite, c'est du sport mécanique qui va pas forcément dans le sens du respect de l'environnement, même si je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits par l'industrie de la course automobile, qu'ils essayent de développer l'efficience des moteurs, les agrocarburants, etc. Il y a un progrès, ça avance, mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis let's go, faut que ça avance encore plus quoi. Je suis certain que le GP Explorer pollue moins qu'un match de PSG en soi. Oui, mais attention à ces histoires de comparaison en permanence. Si on continue à tout comparer, on ne fait jamais rien. Sinon, vous avez lu l'article pour comprendre l'histoire de la PJ. Ouais, on l'a lu au début du stream. Faut pas oublier que les moteurs électriques et les hybrides des voitures actuelles proviennent de la F1. Oui. On savait déjà les... Enfin, oui. Je veux dire, les unités de puissance dans les Formule 1, elles ont été développées après les véhicules hybrides. Mais tu as raison de rappeler quand même que la recherche en course automobile alimente la performance des véhicules partout. Des véhicules grand public, donc leur allègement, leur poids, leur pénétration. Dans l'air, comment on dit ? Enfin, bref, vous avez le mot, quoi. L'utilisation du carbone. Aérodynamisme, voilà, merci. Aérodynamisme. Donc oui, non, mais bien sûr, je dis pas le contraire, hein, je dis pas le contraire. Donc, tout ce que je dis, c'est que j'appelle à ce que ça avance, à ce que ça continue. Je dis bravo à Squeezie d'avoir organisé ça parce que c'était vraiment extrêmement bien amené, extrêmement fun à suivre pendant plusieurs semaines. Le point d'orgue, ça a été cette course qui a été très cool à suivre, que j'ai adoré. Et j'encourage à ce qu'on continue à organiser des trucs trop cool sur Twitch pour le public. Et tant qu'à faire, si on peut faire des trucs qui respectent l'environnement, c'est mieux. Voilà. C'est cool. Et ça va continuer à progresser et let's giggity go, comme dirait l'autre. Tac. Je vais y aller les amis parce que moi du coup je vais pas tarder à aller sur France Info. Il faut que je passe des coups de fil, il faut que je réponde à un milliard de messages, il faut que machin. Donc rappel, je suis à 22h30 sur France Info. Je tweeterai ça de toute façon. On va faire un raid chez David Dufresne. David Dufresne, journaliste spécialisé notamment sur la question de la police, de la justice, qui est en train de faire un stream sur la loi d'orientation et de programmation de la sécurité. Qui est en débat au Sénat. Donc on fait un raid chez David Dufresne. Faites-lui un bisou de ma part. Continuez à vous intéresser à la réforme de la PJ, etc. Merci d'avoir été là. Je suis content parce que ce stream vous a permis à vous comme à moi de comprendre un peu mieux ces histoires de PJ et réquisition. Donc c'était cool. On refera ça, des streams où on essaie de tout se remettre un petit peu. On lit des articles, on essaie de comprendre. Passez une bonne soirée les amis. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain en toute décontraction. Ciao, bye.